Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. On est là, on est bien, on reprend nos droits tout au long de la semaine. Et grande semaine, déjà grande émission, parce qu'on va analyser la victoire du Sénégal à cette Coupe d'Afrique. Bien sûr pendant 2 heures, mais aussi on va se projeter sur les matchs de Coupe d'Europe, ces semaines Ligue des Champions, on a hâte. Voilà, ça reprend ses droits avec une très belle équipe, avec beaucoup d'invités et des invités qui dépassent le cadre sportif, hein. Tu vois, il y a des comédiens maintenant dans Rotten sans flamme, vous allez voir ça dans un instant. On est avec Benoît Boutron, salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Bah ça va. Écoute.
On est bien entouré aujourd'hui.
Ah ouais, la grosse équipe.
Ah franchement, déjà on a notre dinosaure qui est avec nous, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Le micro est bien ouvert. Bonjour messieurs.
Salut Jean-Mi.
C'est pas lui le comédien?
Non, c'est pas lui. Il y en a un qui est.
Non, ça risque pas. Non.
Là, par contre, Jean-Mi, je présente un artiste. C'est Eric Dimeco. Ah oui. Salut Eric. Ah oui.
Comment ça va, Jérôme? Salut Jean-Michel. Salut Benoît. Salut à tous. Grande semaine très importante. Mercredi, Liverpool qui arrive au stade de Vélodrome. Et surtout.
Plus vous êtes favori sur ce match.
L'ouverture de la Casa Dimeco, pas loin du stade.
C'est pas vrai.
Pizzeria.
La Casa Dimeco, ça.
Oui.
Ça y est.
C'est toi le pizzaillon là.
Ça y est. Écoute, tu sais quoi? Je suis pas mal. Je commence à progresser là.
La Casa Dimeco.
C'est pas moi qui vais faire les pizzas pour le moment.
Elle est située où la Casa Dimeco?
Juste derrière le stade Vélodrome.
C'est quoi la spécialité? Il a un pizza signature.
C'est une pizzeria.
Il a un pizza signature.
Ah ben la pizza. Tu sais qu'à Marseille, la pizza, c'est la moitié à choix. Fromage, mais le fromage, c'est les mentales hein, dessus.
On
grille bien, tu vois.
Oh, c'est dégueulasse.
Oui. Ah non.
Les mentales.
Ça c'est la spécialité chez nous. Ah ouais, quand tu viens à Marseille,
donne-nous l'adresse parce que quand nous les Parisiens on va venir au stade Vélodrome, on y passera
toi.
Comme ça.
Surtout toi.
Ben je t'ai dit, 21h rue Raymond Tesser.
Ça va. Magnifique. Ben on viendra en force. On est avec quand j'ai dit un artiste, c'est Eric Dimeco. On est avec notre comédien préféré. C'est Adil Rami. Ami qui est avec nous, salut Adil.
Salut Jérôme.
Ça va Adil?
Salut tout le monde.
Salut Adil.
Merci d'être là.
Merci. Avec plaisir.
Toujours un honneur de t'accueillir.
Merci. Je viens rarement, mais quand je viens, je prends du plaisir.
Bah oui.
Ah oui, mais ça coûte trop cher.
Non, pas du tout.
Bon, là, ça va, c'est gratuit aujourd'hui.
Adil, en occasion de la sortie de la pièce de théâtre dont tu es la tête d'affiche. Et oui, c'est à découvrir dès mercredi. Le jeu de la vérité. On en parlera à 18h45. Tu vas nous parler justement de cette nouvelle reconversion. T'es ça capable de faire plein de choses différentes et tu nous parleras de ça à 18h45.
Avec plaisir.
Donc,
ah bah ouais, on va y aller surtout.
À l'Apollo Théâtre.
Avec plaisir.
Voilà, on espère que tu auras plein de réussites. Moi j'ai vu quelques images, tu te débrouilles bien déjà.
Ah ouais?
Franchement,
c'était en répète, on n'était pas encore rodé, mais j'espère.
Tu as ton texte, tout passe.
Et alors écoute, j'ai mon texte, j'ai plus de 80 pages, mais avec la pression, je sais pas comment je vais réagir.
T'as un souffleur?
Non, on n'a pas de souffleur.
Pas de souffleur.
Tu sais que ils sont jeunes, Jean-Michel, mais à l'époque, au théâtre, il y avait une petite trappe là, avec les mecs qui soufflaient les textes aux mecs.
Ah, ben bien sûr, on m'a expliqué, ouais.
C'est ce qu'on a dit juste avant.
C'est ce qu'on vient de dire. Merci Eric. Vous êtes bien vieux les deux là.
Mais non, mais j'explique aux jeunes qui nous écoutent le concept du souffleur.
Mais comment va Eric depuis la Kings League? Putain, t'étais perdu sur les règles, c'est tellement drôle.
Il est venu à la Kings League.
Il était exceptionnel.
Mais comment
ça?
Non, mais comment?
Tu rigoles, on a mis le bras au Parisien.
L'année dernière, pendant 6 mois, il m'a insulté avec la Kings League.
Mais c'est normal, parce qu'on ne connaît pas la Kings League, mais il a été.
Non, mais c'était pas pour ça, c'est la différence entre Jérôme et moi. C'est que moi je suis allé faire le coach pour une soirée caritative amicalement, alors que lui il va croquer.
Moi j'ai fait le lancement de la Kings League France l'année dernière j'ai pas dit mon dernier mot à la Kings League. Voilà.
Adil, ça tombe bien que tu sois là.
Tu n'as pas dit ton premier mot.
Le premier non plus.
Un grand programme dans Rotten sans flamme avec des thèmes de prédilection pour toi. La Coupe d'Afrique des Nations. On va en parler de cette finale rocambolesque, cette finale chaotique entre Sénégalais et Marocains. Pape Gay sera notre invité à 19h30 et la Jidjouf d'ici quelques minutes. Et le procès à 18h30 de Brahim Diaz, auteur de cette panenka insensée. On va voir qui est le courageux qui va le défendre. Il y en a un au sein de la Dream Team. Adil, toi, tu seras le juge du procès. Tu rendras ton verdict. On a deux procureurs. pour le procès de Brahim Diaz. On parlera également de l'OM à 19h. Rotten se chauffe parce que l'OM est sur la bonne voie avec une victoire convaincante ce week-end à Angers. Mais tout de suite, on y va sur la CAN et cette soirée lunaire à Rabat hier soir.
Oh là là, il y a un check. Brahim Diaz, il hurle parce que il estime qu'il y avait faute sur lui, sur le corner d'Hakimi.
C'est haut, mais après, ça reste pas sec.
Attention, pénalty! Pénalty pour le Maroc à la 97e minute de jeu! Et les Sénégalais rejoignent le banc de touche. Enfin, sinon, on se casse. On se casse du terrain côté Sénégalais. C'est un truc qu'on est en train de vivre complètement dingue.
Ouais, c'est du jamais
c'est
vu, quasiment.
C'est un moment d'histoire, de foot en général, pas que de la CAN.
Ouais, jamais on t'énerve. Tu en mets un crochet du droit.
On demande aux Sénégalais de descendre sur la pelouse et ça se tabasse tout simplement là. On envoie des chaises.
A few moments later.
Le pénalty le plus important de sa carrière, le joueur du Real Madrid face à Normandie, c'est parti. Brahim Diaz, c'est raté. Mais qu'est-ce qu'il a fait Brahim Diaz? Il n'y a pas d'Anka pathétique.
Je cite juste coach Courbis, excusez-moi, qui disait la Panenka c'est pour les prétentieux.
Galagay avec Shérif Ndiaye, l'appel éventuellement de Pape Gay dans la surface de France. Et le but de Pape Gay, la barre entrante et le Sénégal qui fait très mal au Maroc.
C'est maintenant Sadio Mané, quelques petits pas et soulève le trophée vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations dans une ambiance un peu étrange. C'est vrai, un stade quasiment vide. Le Sénégal champion d'Afrique.
Cette finale de la CAN chaotique hier soir donc à Rabat, la victoire du Sénégal 1-0 après prolongation, le but de Pape Gay, la deuxième victoire pour les Sénégalais après 2022, match marqué par ses débordements en fin de match sur lesquels on va revenir avec Nico Pelletier qui est toujours au Maroc pour RMC Sport. Salut Nico.
Salut les amis, salut, salut à tous.
Bon, raconte-nous cette folle soirée et les conséquences qu'il y a eu aujourd'hui.
Oui, 97e minute de jeu hier soir sous la pluie de Rabat. La finale bascule dans l'irrationnel. Brahim Diaz loupe son pénalty après 19 minutes d'arrêt de jeu où les joueurs sénégalais ont voulu quitter le terrain où des incidents ont éclaté en tribune. Un scénario complètement fou et derrière, Pape Gay crucifie le Maroc, une fête gâchée et un match à oublier pour tout un royaume. Mais avec ce scénario épique, cette finale est entrée dans la légende de la Coupe d'Afrique. Depuis ce matin, les réactions sont nombreuses, notamment celles du président de la FIFA, Gianni Infantino. Le patron du foot mondial a condamné des scènes inacceptables lors de la finale de la CAN, mettant en cause certains joueurs et une partie du staff du Sénégal qui ont quitté le terrain. La FIFA ne va pas interférer dans les sanctions, ce n'est pas de sa compétence, c'est la CAF qui va devoir analyser les images de la rencontre et ouvrir plusieurs cas disciplinaires. Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, risque donc plusieurs matchs de suspension. Les gestes de plusieurs ramasseurs de balles à l'encontre du gardien remplaçant du Sénégal pourraient aussi être sanctionnés. De son côté, la Fédération royale marocaine a annoncé qu'elle va recourir aux procédures légales auprès de la CAF, auprès de la FIFA. Mais ça sera très difficile de faire changer les choses pour la Fédération. Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre. Et pour la petite histoire, les Sénégalais sont actuellement dans l'avion, ils rejoignent Dakar et demain matin à 11h, ils vont défiler dans les rues de Dakar. Une ambiance festive à Dakar du côté du Sénégal.
C'est la une de Rotten sans flamme, merci Nico. Est-ce que cette finale de la CAN gâche la fête? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme, comment tu l'as vécu cette soirée et cette finale?
Écoute, moi ça m'a pas gâché le fait d'avoir vécu une belle CAN. Je l'ai dit et je le redis, je trouve que l'organisation, les infrastructures, la cohérence des équipes et surtout la qualité des équipes et des joueurs qui ont été au niveau, les grands joueurs ont été au niveau de la CAN, donc ça a tiré la CAN vers le haut. Je trouve que le niveau était très élevé, à l'image de cette finale qui était à part jusqu'à la 97e minute et ce penalty raté et tout ce qui a suivi ce penalty aussi. Mais jusqu'à là, franchement, le match d'hier, il était magnifique. Moi, on attendait une finale fermée, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des grandes actions des deux côtés.
En tout cas, elle était indécise.
Ouais. Et elle était indécise. Et franchement, je me suis régalé. Donc c'est pour ça que je veux pas retenir que le fait de jeu à partir du penalty. Ce qui s'est passé sur le penalty, en effet, ça doit pas arriver dans le football. On n'est pas au tournoi du quartier là. On est à la CAN.
Tu parles du fait que les Sénégalais soient rentrés au vestiaire.
Oui, oui, oui. Il y a la frustration. Je pense que ça soit Adil, Jean-Michel, Eric et moi, on en en a vécu, la frustration, l'énervement sur des décisions arbitrales qui sont pas forcément pour toi, mais ça fait partie du jeu malheureusement. Et dans un contexte comme au Maroc, j'imagine que les Sénégalais, ils étaient préparés à ça, et à un stade de 70 000 personnes tournées pour les Marocains, ce qui est normal quand tu reçois, c'est pas facile, et t'appréhendes la compétition, et franchement t'appréhendes ce match de la meilleure des façons. Ce qu'ont fait les Sénégalais, ils ont été à la hauteur, c'était pas facile pour eux, et ça il faut quand même s'en rappeler. Après, en effet, l'erreur, ça a été le coach, ça a été le sélectionneur, ouais, qui demande à ses joueurs de sortir. Ça a été la première erreur. La deuxième erreur, ça a été que les joueurs, certains l'ont suivi et l'ont écouté. Heureusement qu'il y a des joueurs comme Sadio Mané entre autres, qui a repris un petit peu, si tu veux, tardivement, mais qui ont repris leurs esprits.
Lui a été à la hauteur de l'événement,
et que en effet ils sont revenus. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. On va parler tout à l'heure de Brahim Diaz, parce que moi, ça, celle-là, je la digère pas. Dans tous les cas, que ça soit marocain ou sénégalais, de toute façon, il a pas à faire ça. Mais ça, on en parle tout à l'heure. Et en effet, cette image là, pendant les 20 minutes, 25 minutes, bah ça gâche la fête d'après, la célébration du Sénégal, parce que à l'arrivée, que ça soit le Maroc ou le Sénégal, les deux auraient pu gagner cette CAN. Et moi, j'ai envie juste de retenir ça. C'était une fête du football. Ça s'est très bien passé jusqu'à la 97e minute. Après, écoute, malheureusement, c'est comme ça, mais je c'est difficile à analyser. Je sais pas ce qu'a dit le.
Je suis complètement d'accord avec toi. On a eu la chance d'avoir les deux plus belles équipes africaines qui se retrouvent en finale, et c'était complètement mérité. Pareil pour, enfin, le Maroc et le Sénégal. En étant franco-marocain, j'ai regardé le match attentivement, et j'espérais que le Maroc gagne, bien évidemment. Mais l'accumulation de ces deux décisions qui, pour moi, m'ont un petit peu dérangé, parce que sur la faute d'Hakimi, on a joué au foot. Et j'estimais qu'il aurait peut-être dû laisser le but et après aller voir la VAR pour prendre ta décision.
Donc l'arbitre siffle sur la faute avant même que le ballon rentre dans le but.
Exactement.
Donc il peut pas consulter la VAR après.
Voilà, ça c'est déjà une première erreur de la part de l'arbitrage. Ensuite, il y a eu l'accumulation. Bon, comme on sait tous, la faute de Diaz. Quand on regarde les images, t'as pas à défendre comme ça. Tu prends pas le joueur par le cou. C'est très mal défendu. Bon, ça encore c'est discutable, et tu peux siffler un penalty. C'est pas le problème. Derrière, il se passe que il y a tout ce fait qui fait que les joueurs sortent, sanctionnable ou pas. Ça dépend. Il parle de la règle 82
Il y a pas de discussion sur sanctionnable ou pas.
Bien sûr.
Il y a même pas de discussion. C'est là où je vous trouve quand même très 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 tolérant. Parce que, allez, il y a l'effet de jeu, il y a les décisions arbitrales. Honnêtement, c'est même pas des décisions arbitrales, c'est même pas des indécisions arbitrales, c'est de l'incompétence arbitrale. Adil, je veux bien sur il siffle très vite, très tôt sur la tête avant le but. Il siffle très tôt. À la limite, allez, pourquoi pas. Mais Adil, s'il siffle penalty sur cet accrochage, et il y a accrochage, je te l'ai dit. Mais sur chaque corner, il y a trois pénalties. Sur tous les corners tirés dans.
Tu t'es pas attrapé par les épaules à chaque match, Jean-Michel, quand même.
Benoît, tu veux qu'on regarde 10 pénalties de 10 matchs différents, Benoît?
Il y a pas des cravates à tous les matchs, Jean-Michel.
Non, mais ce qu'on veut dire, Jean-Michel, c'est que c'est pas non
Est-ce
plus.
C'est un scandale.
C'est une question d'interprétation.
Bon, moi, je vous dis que sur 10 corners que l'on regarde, sur 10 matchs différents, il y a 10 pénalties.
Oui, vous n'êtes pas d'accord. Tu as raison.
C'est votre problème. Mais après, il n'y a pas à tergiverser. À partir du moment où une équipe quitte le terrain, alors qu'elle n'en a pas été, elle n'en a pas le droit, le match est terminé.
Ils n'ont pas tous quitté le terrain.
C'est quoi la règle?
Ils ont quitté le terrain.
Je crois qu'il doit y avoir un joueur sur le terrain qui reste.
Ils étaient plus sur la pelouse.
Normalement, c'est 8. Normalement, tu continues un match jusqu'à 8. Il n'y avait pas 8 joueurs sur le terrain. Il n'y avait pas 8 Sénégalais 10 minutes après qu'il ait signé le pénalty.
Non, c'est sûr.
Eh bien, le match est terminé.
Tu termines là-dessus. Alors ça veut dire, c'est encore pire ce que tu me dis, Jean-Michel.
Mais à partir du moment où tu n'as jamais aucune cohérence, et les ramasseurs de balles qui attrapaient
les serviettes
et les gens qui rentraient sur le terrain. Mais dans le football amateur, si tu organises un match comme ça, Jérôme.
Oui.
Si tu organises un match comme le terrain, il est suspendu immédiatement.
Mais tu as raison, c'est pour ça que, heureusement.
Et quand tu regardes la fin et la remise de la coupe, personne ne voulait remettre la coupe à Sadio.
Eh oui, mais.
Tu as vu? Ils étaient tous les trois là. Tu la prends, je la prends, tu la prends, je te la donne, tu me la rends.
Oui, c'est vrai.
Il y en a aucun qui voulait donner la coupe.
Ouais.
Ça a gâché cette belle finale, parce que quand tu vois Maroc-Sénégal, c'est magnifique.
Mais
moi, quand je parle de tout ce qui s'est passé, enfin l'accumulation, parce que je regarde dans le football. Dans un premier temps. Après, les règles, je ne les maîtrise pas. Il n'y a pas grand monde qui les maîtrise, les règles. C'est quand même très, très grave.
Ouais.
Mais ce que je veux dire par là, moi, il y a une personne qui m'a déçu dans tout ça. Parce que, bien évidemment, félicitations aux Sénégalais, quoi qu'il arrive, parce que je reste dans le sport. Mais moi, ce qui m'a déçu, c'est surtout le comportement de l'entraîneur sénégalais.
C'est ça,
qui, avant le match, a commencé sa propagande de manipulation en mode, regardez, si on perd, vous allez voir, c'est pas de notre faute, c'est l'arbitre. Mais non, mais tu peux pas, t'es coach.
Déjà.
Tu parles de tous les problèmes.
Le climat et la tension sur cette finale.
Pour moi, oui, ça me dérange. Ouais. Ça me dérange énormément parce que, en tant que coach, profites-en, t'es en finale d'une CAN, parle de ton effectif, on te demande de parler de ton effectif, de la mentalité, de comment tu vis le moment. T'es pas là pour critiquer le Maroc et dire regardez bien, vous allez voir, le Maroc, ils vont nous. Eh ben, quand
c'est
coach,
la petite musique qu'on a entendue pendant toute la
Voilà. Ouais. Et quand t'es coach, bien évidemment que les joueurs, ils t'écoutent, on a été joueurs. Donc, c'est le chef de bord.
Ça dépend lesquels. Hein,
mais... Donc, ouais, ça dépend lesquels. Mais du coup, inconsciemment, les joueurs, voilà, c'est ce qui s'est passé.
Oui.
Voilà, faute, pas faute, on sort, c'est bon, le coach nous avait prévenu.
Et puis maintenant,
une fois que l'équipe quitte le terrain et qu'il y a les deux tiers de l'équipe qui sont dans les vestiaires, le match
est fini.
Adil,
ouais, c'est ce
je
que
te
tu
le
dis.
Répète, ouais. Adil, il n'y a même pas de discussion, il n'y a même pas d'interprétation. Je dirais presque même qu'aujourd'hui, dès lors que l'arbitre, ils ne l'ont pas fait, dès lors que l'arbitre fait reprendre le match et accepte que le pénalty soit tiré, alors que les Sénégalais, en dépit de tout, aient quitté pour les raisons qui les regardent, à partir du moment où ils ont quitté le terrain, Adil, le match est terminé.
Ça m'arrange.
Ton point de vue, Eric, sur toute cette histoire.
Écoute, moi je pense pas que ça gâche la compétition, parce que malgré tout, cette finale, elle doit rester dans les annales. De par justement ce scénario de dernière minute, là, ce penalty, cette confusion, cette panenka, la prolongation, le but de Gueye. Voilà. Moi, je pense que ça va marquer les esprits et on s'en souviendra. Après, par contre, il y a une jurisprudence. Moi, j'ai vécu un match où, contre le Milan AC, Jean-Michel devait le commenter, je pense.
Ils avaient arrêté avec l'éclairage,
il y a un pylône qui tombe en panne, sauf que sur le terrain, on y voit très bien, parce que avec les trois pylônes. Voilà, donc, sauf que les Milanais qui perdaient, donc, puisqu'ils perdaient 1-0, ils étaient éliminés, ils sont sautés sur cette occasion pour sortir du terrain. L'arbitre, lui, il a pris ses baloches, il a remis le ballon au milieu de terrain. Bon, alors, c'était dans les dernières minutes. Il a mis le ballon au milieu de terrain, il a redonné le coup d'envoi, il a sifflé à la fin du match.
Mais bien sûr.
Ils ont été éliminés derrière l'UEFA. Sanctionné un an, je crois, sa Coupe d'Europe. L'année d'après, le Milan AC n'a pas joué la Coupe d'Europe. Le Milan AC, la plus grande équipe d'Europe à ce moment-là, de la fin des années 80. Eh ben, non, mais hier, le match,
après les sanctions,
l'arbitre, il doit tout faire pour finir le match. Et après, tu donnes une sanction. Voilà, tu donnes une sanction par rapport au comportement des joueurs. Mais ce match-là, il fallait le finir. Ils l'ont fini. Il s'est bien fini pour les Sénégalais. Il s'est mal fini pour les Marocains. C'est le football. Il y en a un qui a voulu faire une panenka. On va me reparler comme l'a dit Jérôme. Mais derrière, à un moment donné, tu peux pas faire ça. Tu peux pas laisser faire ça. Si tu sanctionnes pas, ça veut dire quoi?
Tu crées un précédent.
L'UEFA à l'époque, ils ont tapé fort. Parce que, en plus, c'était le Milan AC, parce que c'est facile de taper sur les petits. Là, ils ont dit vous devez montrer l'exemple.
À côté de ça, les Sénégalais se sont pas cachés. Ce que je veux dire, ils ont gagné. C'est plus facile de reconnaître leurs erreurs. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu dans toutes les confs, et celle de Sadio Mané, et à montrer encore, allez l'écouter, la conf de Sadio Mané.
C'est le grand bonhomme. Heureusement qu'il était là, la grande classe.
Adil, t'as raison. Ce que je veux dire, c'est qu'il reconnaît. Alors, avant de dire oui, on est heureux et je suis heureux d'avoir gagné ma deuxième CAN et d'avoir été à la hauteur. en tant que leader, c'est surtout de reconnaître que l'image qu'ils ont donnée, elle est terrible, quoi. C'est pas l'image qu'ils veulent donner de la CAN.
Ouais, c'est bien que ce soit Sadio Mané qui ait été le porte-parole et qui soit allé.
Mais heureusement qu'il est là, parce que je pense que si lui n'est pas là, les joueurs ne reviennent pas.
Claude Leroy.
Est-ce que c'est pas Claude Leroy qui connaît parfaitement les règles? Parce qu'en tant que joueur, on peut être joueur de foot, mais ne pas connaître les règles. Peut-être que c'est Claude Leroy qui a peut-être dit à Mané,
si vous revenez pas, vous allez perdre, vous allez être sanctionné.
Dis à tes copains de revenir parce que vous risquez d'être lourdement sanctionné.
Ah oui, c'est pas au courant. Oui, et puis surtout, il y a une Coupe du Monde, Adil, dans quelques mois aussi. Donc, imagine, ils reviennent pas.
France-Sénégal. FIFA, ça l'occupe pas, mais ça l'occupe.
C'est mieux qu'il soit forfait pour nous.
Pourtant, le président de la FIFA, ton ami, était là. Jean-Michel,
j'ai vu le niveau du Sénégal, je suis pas sûr qu'on va gagner nous.
Non mais et ça vous choque pas les gars, ça vous choque pas qu'il soit à la remise là, des trophées. Et oui, il c'est Gianni Infantino qui ne rêve que d'une chose, c'est que la CAN n'existe plus. Il ne rêve que de ça pour la remplacer par une compétition où la FIFA prendra l'argent.
Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais il est là à chaque remise continentale, sauf à l'Euro, parce qu'il est fâché avec Seferin. Il va en Amérique du Sud, il va en Asie, il va partout.
Donc il va de partout sauf en Europe.
Oui, parce que l'Europe, les relations sont très tendues avec l'UEFA et avec Seferin, le président de l'UEFA.
D'accord.
C'est ça la raison. Ce que je vous propose, 18h20 sur RMC, Adil Rami avec nous. Mm-hmm. On va marquer une pause et on revient dans un instant. On va poursuivre le débat parce qu'Elhadj Diouf qui a participé à tout ça, parce que Sadio Mané a pris conseil auprès de lui pour rester sur la pelouse. Elhadj Diouf sera avec nous et on parlera donc de Brahim Diaz et de cette panenka tentée
de cette folie
dans les dernières secondes. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h25, la deuxième demi-heure de Rotten sans flamme exceptionnelle aujourd'hui. Oui, il y a du monde en plateau. Benoît Boutron, Jean-Michel Larquet, Eric Dimeco, Adil Rami. On est là, on va encore recevoir des invités. Ça va arriver. Elhadj Diouf va pas tarder. Bon, il est un peu en retard. Hein. C'est l'heure sénégalaise. Hein,
c'est les attaquants.
C'est les attaquants. C'est et alors attaquants sénégalais. Alors là, on est cuit.
Et on a de parler d'Adil, hein. Allô Jérôme, on parlera donc d'Adil et de ce nouveau défi qui démarre mercredi avec cette pièce Le Jeu de Vérité, mise en scène par Philippe Lelouch, donc on parlera de tout ça à partir de 18h45. Et puis il y a un jeu qui tient à cœur aussi à Adil, c'est l'expérience RMC. On offre deux places pour Marseille-Liverpool mercredi.
Oh, quel régalade.
Deux maillots collecteurs de l'Olympique de Marseille.
C'est un gros match.
Si ça vous intéresse, écoutez bien RMC et dès que ce signal sonore tombe... Vous envoyez OM par SMS au 732-16.
Frisson ça.
OM au 732-16.
Ouais.
Allez, on y va.
Marseille favori en plus. Vous allez manger chez Eric Dimeco à la pizza.
La pizza quoi? L'orange pizza fromage râpé.
Mais la raison, elle est très très bonne. Vous l'avez goûté déjà ou pas, les gars?
Non, mais nous on aime les bonnes pizzas. On aime les pizzas italiennes.
Les gars, je vous jure, je dis pas ça parce que j'ai joué à Marseille et que j'aime Marseille, mais je vous jure que la pizza à Marseille, quand on m'a fait goûter, c'était une dinguerie.
Les mentales.
Roland, il a toujours dit les meilleurs. Mais Roland était objectif. Mais sûr que oui, quand même.
J'ai réussi à ramener Pamela Anderson et Jean-Paul Belmondo dans le même restaurant pour goûter cette pizza.
Ah, ça c'est fort. Mais il y a que toi qui pouvais faire ça.
Ouais,
ça, c'est sûr.
Et après, c'est barré aux États-Unis, on m'a dit.
Juste après. Elle a dit merci pour ta pizza. Écoute, je reviens plus. Hein. Allez, on y va pour le prochain.
RMC, Rotten sans flamme.
L'endroit où on les tire, comme on les tire et tout, moi je m'en mêle pas. Les panenka, laissez-les de côté pour les artistes ou pour les prétentieux. Essayons d'être efficaces.
Le procès de Rotten sans flamme.
Et oui, toujours des pensées pour notre ami Coach Courbis. Et donc Brahim Diaz qui va devoir désormais vivre avec ce triste souvenir. Il est meilleur buteur et meilleur joueur de la CAN. Il a reçu le trophée d'ailleurs à la fin du match et pendant la cérémonie, il a été sifflé par le public marocain. Cette panenka, cette tentative de panenka complètement ratée, échec qui a causé la perte du Maroc d'après Walid Regragui. Il a réagi aujourd'hui, Brahim Diaz, il a publié un message. Je vais vous le lire. J'ai le cœur brisé, j'ai rêvé de ce titre grâce à tout votre amour. Chaque message, chaque témoignage de soutien qui m'ont fait sentir que je n'étais pas seul. Je me suis battu toutes mes forces avec mon cœur, j'ai échoué. J'en assume l'entière responsabilité. Je vous présente mes excuses.
Ah, c'est touchant.
Plus sincère pour le joueur du Real Madrid qui a 26 ans. Ouvrons donc le procès de Brahim Diaz et de sa panenka insensée. On a deux procureurs. Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Eric Dimeco, bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat de Brahim Diaz. Eh oui, le plus humain d'entre nous, c'est Maître Larquet. Bonsoir.
Bien sûr, bonsoir, bonsoir.
Et un juge totalement objectif, c'est Adil Rami qui va rendre son verdict.
Ah, je sais pas si je vais rendre service, mais...
Si tu rendras ton verdict, tu diras qui remporte ce procès. Ouais. Jérôme, allons-y sur cette histoire de Panenka. Qu'est-ce que tu en as pensé alors?
Bah écoute, rien que le message déjà me conforte dans ce que je vais dire. Le message de Brahim Diaz sur ses réseaux sociaux, il peut pleurer tout ce qu'il veut, il peut envoyer tous les messages du monde. Quand tu décides de tirer un pénalty de cette façon-là, à cette minute-là, avec toute la pression, tout ce que ça représente, t'avais 70 000 Marocains dans le stade, et je te parle même pas des millions qui regardaient le match. Ça fait 50 ans qu'ils attendaient ça. Tu savais que si tu marquais ce pénalty, c'était fini. Tu peux rater un pénalty. Attention, c'est arrivé aux très grands joueurs, il n'y a pas de problème. Mais de cette façon-là, c'est scandaleux. En fait, et tu te dis que, à la fois, bah, tant pis pour lui, parce qu'il n'a pas respecté le football, il a voulu humilier les Sénégalais, en plus avec tout le contexte qu'on a raconté avant. Donc c'est d'autant plus surprenant qu'il tente ce geste-là. Et après, pour nous qui avons tous joué au football, que ça soit au niveau amateur ou au niveau professionnel, quand tu tires un pénalty, une Panenka, c'est prémédité. D'autres façons de tirer le pénalty, c'est pas prémédité parce que c'est un jeu avec le gardien. Une Panenka, t'es obligé d'y penser avant le coup et tu te dis tiens, je vais faire la feinte là et je vais la piquer juste, elle va rentrer tout doucement parce que le gardien il va partir à droite ou il va partir à gauche. Manque de bol, c'est pas ce qui est arrivé. Donc en plus de ça, c'est prémédité. Tu veux les humilier et puis je te le dis, c'est prendre la lumière à travers tous ces messages. Il peut pleurer tout ce qu'il veut sur le banc de touche.
Après, il a le droit de regretter.
Non,
Jérôme, t'es un peu dur.
Non, mais attends, il peut regretter. Ouais, il demande à tous les, à Walid Regragui, qui est sélectionneur, qui s'en prend plein la tronche aujourd'hui. Évidemment. Parce que, bah, écoute, après, encore une fois, ils ont fait une super CAN, il n'y a pas de problème. Même lui, Brahim, il a été à la hauteur, il a marqué des buts. C'était, s'il marquait ce penalty-là, d'une bonne façon, de la meilleure des façons, je pense qu'il aurait été même élu meilleur joueur de la CAN.
Il a été élu meilleur joueur de la CAN.
En plus, ah, ouais. donc d'autant
non,
plus.
C'est Sadio Mané, non?
Non, c'est meilleur.
Meilleur buteur
Brahim Diaz, mais non, meilleur
Brahim
joueur.
Diaz, meilleur buteur, non, meilleur joueur, c'est bah, Sadio
Mané. Sadio Mané, c'est ça. Donc
vous n'avez pas regardé
le. Non, c'est Benoît qui me reprend. Alors qu'il aurait eu automatiquement les deux titres, et ce qui aurait été logique. Et encore une fois, je me dis que tirer un pénalty de cette façon-là, à ce moment-là, c'est tirer la couverture à lui. C'est bon, on sait, c'est le Maroc de Brahim Diaz, d'accord. Mais là, en fait, la façon de tirer, où il a marqué, c'était pour humilier, et c'est pour dire, j'ai fait gagner le Maroc. Non, mon coco, c'est collectivement que t'as fait gagner le Maroc. C'est le collectif qui a gagné, c'est le sélectionneur avec tout le public et tout ce qu'il y a qui aurait gagné. C'est pas Brahim Diaz qui a fait gagner le Maroc. Et en fait, ça me dérange. Et c'est ce qui m'a fait arrêter le football avec cette nouvelle génération, c'est que je trouve qu'en effet, on n'est plus dans le sport collectif, on est dans le sport individuel. Et que ces mecs-là, en fait, ils se nourrissent des stats, ils se nourrissent des titres parce que eux ont existé, parce que eux sont les meilleurs, parce que eux font gagner l'équipe et tout ça. Et cette façon de frapper le pénalty, s'il l'avait marqué, tout le monde en aurait parlé aujourd'hui, ça aurait fait le tour du monde. On n'aurait pas juste dit le pénalty gagnant de Brahim Diaz, on aurait dit la Panenka magique de Brahim Diaz. Donc tant pis pour lui, mais malheureusement, t'as rendu triste tout un peuple. Et toi le premier, et il va falloir qu'il se relève parce que ça va pas être facile.
Eric, aïe.
Écoute, que rajouter à ce qu'a dit Jérôme, j'ai jamais été dans ce cas-là, c'est-à-dire sur le terrain, à te lever le cul pendant 90 minutes pour aller chercher un des plus grands titres. Quand tu es joueur africain, c'est il y a la Coupe du Monde dessus et puis il y a ce titre-là. Après en club, il y a la Ligue des Champions. Donc j'ai jamais connu ce cas-là où en étant défenseur du coup, tu te lèves le cul pour un mec qui pour une équipe et tu as la possibilité de gagner. Et ton attaquant fait ça. Adil nous répondra tout à l'heure. Je sais pas comment j'aurais réagi dans le vestiaire à la fin du match. Kato disait tout le monde, enfin il y a pas de gens inexcusables. Tout s'excuse et c'est que du foot. Indéfendable.
Indéfendable.
Tu as raison. Qui n'est pas défendable. Ouais. Voilà. Et il a raison, Eric. Tout le monde, même les plus grands. On va pas partir dans des trucs, mais même les plus grands criminels du monde ont été défendus. Donc tout le monde est défendable. Et Brahim Diaz, il est défendable. raisonnable, il est même peut-être excusable, mais là où Jérôme a raison, c'est que tu n'as pas le droit de faire ça, ne serait-ce que par rapport à tes coéquipiers, à ton coach. Et alors, ce qui m'énerve dans cette nouvelle génération, c'est que, tu sais, les tartines qu'ils font sur Instagram,
le lendemain, c'est ça, pour s'excuser, en plus, c'est...
ou pour dire que, tu vois, voilà, ne fais pas ça. Tout le monde sait que tu es malheureux. Si tu es pas malheureux après avoir fait ça, c'est que tu es pas normal. Donc, on l'a vu pleurer. Donc, c'est pas la peine. Ouais, ne te justifie pas. Voilà, tu n'as pas le droit. Voilà, c'est tout. Tu n'as pas le droit.
Il y a peut-être une pression différente qu'à votre époque aussi. Hein. C'est peut-être un peu.
Oui, bien sûr.
Arrête avec la pression.
Non, mais tu as raison. C'est vrai que.
Tu joues pour ton pays, que ça soit il y a 50 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans.
Tu as raison, Benoît. C'était nécessaire de dire un mot quand même pour les peuples marocains.
Ben oui. Non, mais Benoît, tu as raison. Tu as raison que Manu Amoros, à 91, quand il tire le pénalty à finale de Coupe d'Europe, il n'a pas la pression.
Non, mais bon, il ne reçoit pas peut-être 400 000 messages d'insultes le lendemain sur ses comptes et ses réseaux sociaux. C'est peut-être ça aussi la différence. Non, mais là, il doit vraiment très très mal le vivre.
Donc,
c'est un enfer.
Non, mais je t'ai pas dit ça.
Tu viens de confirmer que les mecs jouent pour les réseaux sociaux.
Mais non, je suis en train de te dire que tu affrontes une réalité différemment aujourd'hui qu'auparavant. La pression était la même, c'est juste une autre façon de la subir.
Et donc toi, Benoît Boutron, quand tu as pénalty à la dernière minute pour gagner un grand titre, au lieu de mettre une mine, mets une panenka.
Tu fais une panenka.
Tout est normal dans ce que tu dis. Peut-être que
c'est l'ancienne génération qui l'a fait rêver. Peut-être qu'il a voulu être l'héros à travers un Zidane.
C'est même sûr.
C'est possible. Alors, Jean-Michel, comment tu vas le défendre?
À travers le panenka, tout simplement.
Antonine Panenka, exactement. Qui était Adil, quelle nationalité, panenka?
C'était, alors, si j'ai pas de bêtises, Yougoslave.
Un Tchécoslave.
J'étais pas loin. Et c'était contre quelle équipe?
C'était contre l'Allemagne.
Bravo, Adil.
Contre Sepp Maier.
Exactement. Ouais. Adil, une culture foot impressionnante.
Non, pas dingue, non.
C'est dingue. Bah si, regarde, on s'est complété.
Vas-y, Jean-Michel.
Ouais, c'est pas fait. Alors, le geste en lui-même, vous avez tout dit, mais je vais quand même le défendre. Je vais le défendre parce que vous connaissez la tactique du bouc émissaire. Et faire rejaillir la défaite sur la seule responsabilité de Brahim Diaz, qui a marqué des buts qui ont permis au Maroc d'arriver en finale, et qui n'a pas marqué le but qui aurait permis au Maroc d'être le héros de cette CAN. Mais je vais parce que moi je pense qu'il y a dans la tête des joueurs, et je peux pas me mettre à la place des joueurs de cette génération. Parce que, comme le dit Benoît, ce sont des gens qui ont énormément la pression, sachant que la pression n'existait pas auparavant. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Ah oui, c'est dingue.
Mais cette mauvaise
phrase,
je vais l'excuser parce que.
Alors, il y avait moins de pression avant, n'importe quoi.
Dans ce match-là,
Adil, faut que tu mettes le tonnerre placé pour répondre.
Moi, je suis d'accord avec toi. Merci.
Arrête, Adil.
Vas-y, Jean-Michel, vas-y.
Il y a une action peut-être où il y a un Marocain qui a encore plus de chances de marquer un but que ne l'a Brahim Diaz. Parce qu'il n'y a plus personne dans le but.
El Kaabi, sa reprise là ?
El Kaabi, quand il met pied gauche à côté.
Après, il n'y a plus personne dans le but.
La tête de Naïef aussi.
Ah ouais.
Naïef.
Ouais.
Donc, si vous voulez, à un moment ou un autre, quand vous voulez trouver un bouc émissaire, dire que votre chien a la rage, il n'y a aucun problème.
Oh, quand même.
Mais sur ce match-là, c'est pas Brahim Diaz qui perd le match. Les Marocains n'ont pas dominé de la tête.
Il le perd pas, mais il peut le gagner par contre.
Ah oui, il peut le gagner,
c'est sûr.
Ils peuvent le gagner.
En le tirant normalement, il y avait grande chance de le gagner.
Il peut le gagner, lui.
Bah oui.
Si toutes les occasions, s'ils avaient tout ce qui leur manque, ils seraient formidables, tous les joueurs.
Non, mais Jean-Michel.
Ils seraient les mêmes joueurs formidables, Eric.
C'est tout à ton honneur de le défendre, mais j'aurais bien aimé voir si, à finale d'une Coupe d'Europe ou d'un Euro ou de trucs, ton attaquant fait ça.
Ouais, il fait ça. Et puis tu le perds derrière et tu rentres dans le vestiaire, tu l'embrasses.
C'est pour ça que la différence entre vous et moi, c'est que moi je suis courageux et que vous ne l'êtes pas.
Et voilà, bravo. Et Jean-Michel,
Michel, tu peux aussi leur dire que sans Brahim, est-ce qu'ils auraient été en finale certainement? Bah, on sait pas.
Mais ça, ça va
avec, avec les
filles, c'est quand même bien.
Mais si le tir revient, le pénalty.
Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? C'est pas possible.
Il arrête.
Alors, le verdict du juge Rami, qui, contrairement à vous, est connecté à son époque et qui sait exactement ce que vit Brahim Diaz aujourd'hui.
On en reviendra sur la pression. J'ai mon idée sur la pression aujourd'hui.
Qui a gagné alors?
Alors, moi, sincèrement, je suis d'accord avec tout ce que vous dites par rapport au timing. C'était un mauvais timing, cette histoire de Panenka. Ouais, oui. Et moi, le premier, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Maintenant, on se doit de lui pardonner. On doit lui pardonner parce que
on n'a pas dit qu'on le condamnait à vie, hein.
Non, d'après ce que j'entends, vous étiez un peu dur avec lui. Moi, je peux comprendre. Je peux comprendre. Et moi, le premier, ça m'a fait vraiment mal. Vraiment, ça m'a touché au plus profond de mon cœur. Mais aujourd'hui, voilà, on se doit de lui pardonner parce qu'on peut pas oublier tout ce qu'il a fait auparavant. Tu ne peux pas le. Déjà, de lui-même, on sait qu'il va prendre cher. On sait qu'il va prendre cher et aujourd'hui encore ce matin en me réveillant, j'ai pensé à ce joueur parce qu'on a été joueur et je peux même pas imaginer ce qu'il risque de prendre ces prochaines semaines et ces prochains mois.
Mais on a été joueur. Si tu fais une connerie, il faut assumer.
Oui, non, mais lui il assume, tout le monde assume. Mais le problème c'est que tu ne peux pas lui en vouloir parce que de toute façon ça a été fait, ça va rien changer. Donc on se doit de lui pardonner parce que c'est comme ça. Il a pris.
Tu peux lui en vouloir d'avoir fait ça.
Mais bien sûr,
arrête, t'as perdu.
Mais moi en tout cas je lui pardonne parce qu'il a pris ses responsabilités. Il a eu entre parenthèses les couilles d'aller tirer ce penalty.
Il y a
une histoire avec le Maroc et les pénalties par rapport à Hakimi contre l'Afrique du Sud. Donc c'est vrai que quand tu viens, tu te pointes pour tirer ce tir au but, ça fait flipper. Ça fait flipper. Bah alors, peut-être pas pour toi, mais en tout cas moi je me suis mis à leur place.
Adil, on a tiré des pénalties. Bien sûr que t'as une pression, et d'autant plus pour faire gagner un titre comme ça. La pression, là, il y a pas pire.
On est d'accord sur la panne-casse, c'est des mauvais choix. Mais moi, je me suis dit par rapport vis-à-vis du respect envers le Sénégal, le Maroc, les Marocains, tout ce que tu veux.
Et Adil, mais c'est ça en fait. Elle passe mal parce que ce geste-là, c'est pour humilier Roland Courbis. Roland, on a une pensée.
Mais je pense pas qu'il ait voulu humilier
notre coach.
Moi, je pense qu'il a voulu rentrer dans l'histoire en disant j'ai fait une panenka en finale.
Je veux juste avoir.
Là, il est rentré dans l'histoire pour être celui qui l'a marqué.
Dans le débat, qu'est-ce que tu penses de cette
dans le même sac que Landreau.
Cette nouvelle culture de l'excuse.
Mais pareil,
quand un joueur s'excuse sur les réseaux sociaux, est-ce que ça te pose
aujourd'hui, comme dit Kylian Mbappé, il a fait un peu trop tôt à mon avis et c'était pas aussi gros. Donc, il n'avait pas besoin de le faire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le temps.
Surtout qu'il pourra le faire après tous ces matchs.
Le temps ont changé. Et comme dit Kylian Mbappé, le football aussi a changé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent une énorme place dans le monde du football. Tous les joueurs se nourrissent et se mettent en confiance avec les compliments qu'ils reçoivent. Tout le monde regarde les commentaires sur les stories qu'ils postent ou autres, les DM, ce que tu veux. En contrepartie, la pression, elle est multipliée par je sais pas combien par rapport à l'époque. Je vais pas vous mentir, je suis désolé, même moi, je viens de cette génération, parce que moi j'ai connu les deux. Et tu sens, là, son téléphone, il va même pas pouvoir le prendre, il peut même pas ouvrir ses réseaux sociaux parce que
la pression est ce qu'engendre la célébrité, voire.
Mais c'est une forme de pression, Eric. Hein.
Non, mais la pression, c'est avant de tirer le pénalty, ce que tu as avant de tirer le pénalty.
Est-ce que c'était la même avant et c'est exactement la même qu'avant? T'es d'accord avec nous, Adil, là-dessus?
Ouais, la pression. Ça reste la même avant de tirer pénalty.
Mais il doit être rassuré parce qu'il y a eu un message de Kylian Mbappé. Donc je pense que Kylian l'a rassuré, Brahim.
Ah, l'alerte. C'est maintenant qu'il faut s'inscrire 5 minutes pour envoyer OM au 7-32-16 et remporter 2 places pour Marseille Liverpool mercredi. Et gagner 2 maillots collector de l'OM. N'hésitez pas, 5 minutes pour envoyer OM au 7-32-16. Dans un instant, on parle d'Adil Rami, l'acteur, et oui, l'homme de théâtre, avec la pièce Le jeu de la vérité. Allez, à tout de suite sur
RMC. RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h45 sur RMC. On est là dans Roten sans flamme. On finit à première heure avec le Allo Jérôme. On va pas aller chercher trop loin. On a Adil Rami qui est avec nous. Donc il va nous raconter sa pièce de théâtre qui c'est J-2, hein, c'est ça.
Allez.
On est dans Roten sans flamme avec Eric Dimeco, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron aussi. Après 19h, Benoît.
Roten se chauffe parce que l'OM est sur la bonne voie. 32-16.
Ils ont fait un très bon match.
Une qualité d'affilée et une grosse
pour
semaine.
Pour Deserbi, c'était le meilleur match depuis son arrivée.
Liverpool mercredi et Lens samedi. Énorme semaine pour l'OM et on suivra ça dans
le match. Là, s'ils gagnent les deux, là, ça y est, c'est parti.
On s'est fait un nouveau copain d'ailleurs ce week-end, je sais pas si t'as vu, Jérôme.
On disait ça il n'y a pas si longtemps avec le Paris Saint-Germain et ils avaient gagné d'ailleurs.
Avec le PSG.
Ouais, avant le match du Paris Saint-Germain, c'était des matchs référents.
C'est vrai.
Et derrière,
c'est vrai.
Ouais. Bon, enfin bref.
Bon, on y va, on parle d'Adil, l'acteur.
Adil, t'as pas joué avec Cassano, toi?
Non, contre.
Non.
C'est un nouveau copain de Jérôme.
Ton poteau, t'as jamais vu
Non, mais il écoute l'émission, voilà. Donc ça tombe bien.
Et... indirectement, on lui rapporte certains propos et ça l'a fait réagir.
Il était fort, Cassano. Oh.
Il était fort.
Ouais. Pourquoi vous êtes battu
Ah non, on s'est
pas battu encore. Non, mais je veux dire.
Mais lui, il écoute. Il écoute l'émission référence, c'est normal.
Allez, parlons d'Adil.
RMC, Rotel sans flamme.
T'es pas content de me voir?
J'adore, tu fais le show.
Ah, je suis ton clown alors.
J'ai pas dit ça.
On va arrêter sur la positivité, attitude. Voilà.
Allô Jérôme.
Cette nouvelle étape dans ta carrière, donc une nouvelle vie pour toi, Adil. Tu vas jouer au théâtre dans la pièce Le Jeu de la Vérité, qui a été écrite et mise en scène par Philippe Lelouch à l'Apollo Théâtre. 4 dates par semaine pendant 7 semaines, je crois, jusqu'à début mars. Mm-hmm. Ça démarre mercredi. Dans quel état t'es déjà? Est-ce que t'es tendu encore plus?
Excité.
Que est-ce que t'as la pression ou danse avec les stars? T'es encore pire?
Non, en fait, quand je me projette à mercredi, en plus c'est l'heure de Ligue des Champions.
Oui, c'est vrai.
J'ai l'impression de jouer un match de Ligue des Champions.
Pendant OM Liverpool.
Exactement. Non, mais quand je me projette, j'ai un petit peu de pression, ce qui est normal, hein, parce que je débute dans ce monde. Pression. Mais j'ai fait ça parce que j'avais besoin de retrouver de l'adrénaline et de la pression. Quand on arrête notre carrière, j'avais le sentiment d'avoir tout perdu. Il nous reste de l'argent, certes, mais on n'a pas ce qui nous alimente le plus. Pour moi, c'était l'adrénaline, la pression, le fait d'être jugé. Et donc là, je l'ai retrouvé grâce à tout ce que j'ai pu faire jusqu'à ici, danser avec les stars et tout ce que j'ai pu faire. Et là, maintenant, ça y est, j'ai trouvé une voie qui s'appelle le théâtre. Je prends tout le monde à contre-pied parce que j'articule pas tout le temps. J'ai pas une bonne mémoire, mais ça a l'air d'aller.
C'est Philippe qui t'a contacté en premier ou c'est toi qui a été
Non, c'est Philippe qui m'a regardé. On s'est rencontré dans une boutique dans Paris. Il m'a dit, attends, j'ai un rôle pour toi. Tu veux faire du théâtre? Je dis, là, ça tombe bien. Je viens de finir une série qui s'appelle Léo Mattei. Sur TF1, une série qui cartonne de Jean-Luc Reichmann. Donc j'ai eu la chance d'avoir un très beau rôle. Et derrière, il m'a dit ce soir, on prend un café, je t'explique le script, cette pièce. Et quand il m'a expliqué, j'ai dit attends, mais c'est extraordinaire. J'adore l'idée, j'adore le personnage.
Tu veux qu'on fasse le speech rapidement?
Tu peux, si t'arrives.
C'est donc trois amis d'enfance qui se rejoignent régulièrement pour dîner. Mm-hmm. Et un soir, il y en a un d'entre eux qui fait une surprise aux autres et qui ramène le crush de tout le monde quand vous étiez ado, en fait.
Exactement.
Et là, démarre un petit jeu entre vous trois. C'est ça, ce qui rend la scène cocasse.
La bombe du lycée. Il l'a retrouvé 20 ans plus tard et on joue au jeu de la vérité, comme tout le monde fait habituellement. Ouais. Et voilà, donc du coup, bien évidemment, j'ai accepté parce que j'ai senti le rôle. Grâce à Danse avec les stars, j'ai eu pas mal d'autres propositions parce les gens ont kiffé mon interprétation. Sauf que je refuse aujourd'hui d'accepter tout et n'importe quoi pour qu'on me voilà. Donc du coup ça tombe très bien.
Et tu crois que Adil, tu crois que Alain Delon, quand il montait sur scène, il avait moins la pression que toi du coup?
Bien sûr.
Il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est pour ça, Eric.
Non, mais il devait pas avoir de pression lui non plus, puisqu'il paraît qu'à l'époque il n'y avait pas de pression.
Ils sont toujours susceptibles à leur âge. C'est fou, Jérôme dit quelque chose.
On n'est pas susceptibles. On est fragiles. C'est différent. Ça, par exemple, c'est un truc que je dois dire sur scène.
Ça fait partie des.
Peut-être tu le dis bien.
Merci.
T'as pas de problème d'élocution là.
Ça passe quand je crie.
T'as eu différentes expériences. Adil, on l'a dit, t'as fait Danse avec les stars, tu t'es beaucoup investi, t'as passé des heures comme ça d'entraînement. Est-ce que l'entraînement au théâtre, c'est encore autre chose? Est-ce que c'est encore plus dur au niveau de la concentration, de la mémoire? Est-ce que c'est une vraie épreuve de réussir à être bon au théâtre?
C'est complètement dur pour moi, surtout que j'ai toujours eu tendance à travailler avec mon physique, tout ce qui est musculaire, athlétique. Mon cerveau, j'ai toujours laissé au repos, même si sur un match de foot, quand t'es footballeur, il faut être très, très smart quand même. Il faut bien se placer, il faut anticiper.
Tu aurais dû faire du rugby, là, tu le laissais complètement au repos, là.
Non, mais là, c'est différent, parce qu'il faut retenir, il faut mémoriser. Il y a une rythmique à respecter, il y a des tons. Finir en bas, finir en haut, il y a un placement, une mise en scène. Faut jouer sans donner l'air de jouer, donc c'est pas facile. Hein.
Ça fait combien de temps que tu la bosses cette pièce?
Ça fait 2 mois et demi. C'est très court, très court.
Et 2 mois et demi, c'est quoi à peu près?
C'est tous les jours, c'est 5 jours par jours, semaine.
On a commencé par faire presque tous les jours pendant 2 semaines. Mmh. Ensuite, il faut coordonner les 4 comédiens en même temps et ça c'est très compliqué. Ouais. Entre temps, j'ai eu la Kings League, donc je suis parti 10 jours. Ouais. Donc j'ai dû faire des visios, j'ai pris un ami à moi avec le texte, il a dû me faire répéter. Et puis là, on est encore en train de répéter. Aujourd'hui, on a fait 4 heures, 4 heures et demi. Demain, on fait 4-5 heures. Et puis après, ça y est, c'est le grand jour.
Mais là, ça va.
La Kings League, c'est tellement compliqué, tu as été obligé de réfléchir du coup. Là.
Non, mais la Kings League, si tu veux, quand tu vas jouer à Sao Paulo au Brésil et que tu représentes l'équipe de France, t'es obligé de donner ton énergie, ton temps et tout ça pour. Donc moi, je fais tout à fond pour. un goal.
Tu le retiens comme un défi personnel que tu te lances, ou est-ce que c'est une ambition à moyen terme? Est-ce que
tu
as envie de
faire ça? Est-ce que tu veux être comme Franck Leboeuf?
Les deux. Après. Alors, c'est pas mon exemple aujourd'hui, Franck, parce que bien évidemment, il est au théâtre et souvent, ouais, on associe mon nom à celui de Franck Leboeuf. Mais moi, je dirais plus Eric Cantona parce que j'aime le cinéma. Ouais. Et Eric fait du théâtre et du cinéma. Donc, et Franck ne fait pas de cinéma.
Pas beaucoup, hein.
Pas beaucoup.
Il a fait quelques séries, mais il fait beaucoup de théâtre.
Il en a fait peu, mais ouais. Mais
fait des pubs, hein.
Ah non, mais c'est pas méchant.
Après, c'est un autre, c'est un autre exercice, hein. C'est plus compliqué, le théâtre,
malgré tout. Ah bah oui, complètement. Ah bah complètement, parce que le cinéma,
tu commences par le plus dur, là.
Après, pour défendre. Tu l'as pas attaqué, mais Franck est très bon, hein, au théâtre. Bien sûr, franchement, moi je suis allé voir sa pièce.
Non, c'est vrai, hein.
C'est fantastique.
Ah non, mais complètement. Mais moi, c'est vrai que j'aime le cinéma.
Mm. Ouais. Donc toi, c'est une porte d'entrée pour ensuite aller au cinéma, ouais. Et
j'essaye. Après, si j'échoue, c'est pas grave.
La recette,
bah, si t'as fait Léo Mattei déjà.
Ouais. Comment
Ah, c'est quoi la recette,
La recette, c'est si t'as un petit trou de mémoire.
C'est quoi, Jean-Michel, alors?
Ah ben, alors nous là, c'est pas comme à l'époque, c'est pas comme la pression, on n'a plus de souffleur.
À l'époque, il y avait un souffleur, ouais, qui ouvrait une petite trappe, comme ça, qui soufflait le lecteur. Là, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Bah là, je suis avec Manon. Là, je suis avec des comédiens comme Manon Sanchot, avec Sam Lelouch, le fils de Philippe Lelouch, et Baba Rudy. Et j'ose imaginer qu'ils vont pouvoir m'aider si à un moment donné j'ai un trou. Au pire, j'improvise, parce que je connais l'histoire.
Est-ce qu'il y a du plaisir quand tu joues, ou t'es trop dans le stress du texte, de la gestion des autres acteurs?
Tu poses des bonnes questions, dis donc.
J'imagine qu'il y a du plaisir quand même.
Ah bah, au début, je prends du plaisir parce qu'en fait, aujourd'hui j'ai 40 ans et on apprend à se connaître. Ouais. Putain, j'ai pris un sacré coup de vieux. Et j'ai l'impression d'être fait pour transmettre des émotions. J'aime transmettre des émotions en tout cas. Et c'est vrai que je prends du plaisir à jouer au théâtre parce que j'ai l'impression que les gens kiffent, quoi.
Bon, on va aller voir ça si tu nous transmets des émotions.
Moi je vous trouve des places avec grand plaisir.
Bien sûr qu'on sera là.
Vous allez partir à tourner,
Jérôme, c'est sûr.
Ah bah la tournée, alors c'est prévu.
Alors là, vous allez partir à tourner.
Exactement, on a prévu une tournée de toute la France, plus de 50 dates.
Ouais.
Bah, partout dans toute la France, je suis content, ça va être des mises au vert.
Dans le sud, comme tu descends un peu.
Tu vas venir, j'espère. Mes parents, je viendrai manger des pizzas parce que j'ai entendu en début d'émission que tu avais une pizza derrière.
Du Béco.
Ouais, c'est magnifique.
Et mental gratiné.
Non, mais t'as toujours joué avec ces émotions-là. À Marseille, ils s'en souviennent. Tu les faisais pleurer, des fois, les supporters. Donc,
on rigolait parfois.
T'as dit que t'avais reçu plein de projets après Danse avec les Stars. Certains que t'as acceptés, d'autres que t'as refusés. Qu'est-ce que t'as refusé, par exemple? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'est-ce que t'as pas eu envie de faire?
Bon, il y a eu pas mal de télé aussi, mais j'ai eu beaucoup de propositions sur des films.
Ouais.
Mais en mode acte de présence pour mon nom, et ça m'intéresse pas du tout.
Ouais. Mmh. Jouer Adil Rami dans un film.
Voilà, exactement. Et moi aujourd'hui, c'est pas mes ambitions du tout.
Ouais.
Non, j'ai envie d'aller dans ce monde et de tenter de voir ce que j'ai vécu ça dans le monde du football. Je suis arrivé, j'ai jamais fait de centre de formation, j'ai débarqué à 19 ans, j'ai appris sur le tard et ça ne m'a pas dérangé. Et j'ai ramené un petit peu de fraîcheur, j'estime, dans ce monde de football. Vrai, ouais. Et donc j'ai envie de faire la même chose dans le cinéma, parce qu'à partir du moment où ça me passionne, pourquoi pas.
Est-ce que tu gardes ce lien fort avec le foot? Est-ce que tu veux garder un pied dans le foot et continuer à donner ton avis sur les matchs?
Ah ben, ça toujours, parce que c'est naturel. On aime le foot, j'aime la tactique, j'aime cette passion, donc ça vient naturellement, ouais.
Quand est-ce que tu reviens à RMC, du coup?
Bah écoute, normalement j'ai rendez-vous avec votre chef pour voir si je peux rejoindre une équipe un jour tôt ou tard, parce que vous êtes quand même une grande chaîne, même si parfois vous racontez de la merde, mais vous n'êtes pas toujours cohérent.
Ah, pas dans cette émission.
Qui est
cohérent? Ça dépend.
Qui est
J'écoute pas tout le temps. Bah toi parfois, Roten, t'es pas toujours cohérent.
Mais comment ça? Sur quoi? Sur le football?
Il a raison, on te le dit toutes les semaines, Jérôme.
Après, bon.
Non, j'ai pas d'exemple. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est bien, parce que je sais qu'elle est écoutée. J'ai beaucoup d'amis d'ailleurs que je salue qui t'écoutent, qui vous écoutent. Tous, et ça fait plaisir.
T'es le bienvenu, en tout cas. Ouais. T'es bienvenu.
Merci.
Et on espère surtout que ça va cartonner ta pièce. C'est vrai.
J'ai peur que la radio tous les jours, il y ait trop de pression pour Adil.
Parce qu'il y a les réseaux sociaux.
Il est vexé,
Tu sais que si Adil oublie son texte, il y a les souffleurs dans une trappe comme ça, il levait la trappe.
Et tu sais où il souffle pour qu'il apprenne mieux son texte.
Je veux pas savoir.
Non, mais c'est vrai que moi, je rebondis juste sur le fait que de faire ça parce que tu recherches l'adrénaline qu'on a connu sur le terrain, et c'est vrai que c'est quelque chose que moi je pense à ça aussi très souvent.
Je la retrouve dans la position, un rôle pour Jérôme.
Écoute, pour tout vous dire, on m'a proposé aussi une pièce de théâtre il y a quelques mois. C'est vrai.
C'était quoi le titre de la pièce alors?
Je sais plus, et c'est quelqu'un qui travaille avec qui fait beaucoup de pièces avec Franck Leboeuf.
OK.
Et donc un peu
Franck et toi, ça serait beau, moi je vais.
Non, mais Franck n'était pas dans la pièce.
Moi je paye.
Et en fait, c'est une question de temps, c'est tout.
Eh oui,
et le cinéma, non?
Bon, le cinéma, après, avec ma gueule, je pourrais, mais bon, j'attends. Voilà.
Merci Adil. L'Apollo Théâtre.
Le problème, c'est que les rôles de Jérôme, c'est Brad Pitt. Il est
mort. C'est ça, exactement.
Bah, je pourrais le doubler.
Ouais. Adil, si on veut venir te voir, on va sur Internet, Apollo Théâtre, et puis on réserve la date.
C'est ça, exactement.
4 dates par semaine.
C'est ça.
Première mercredi, à quelle heure?
Alors, ce mercredi-là, je ne sais pas à quelle heure je commence.
Ah. Ok, je crois que c'est 20h ou
22h. Ouais, c'est 20h.
Ah, c'est en plein pendant le match de Marseille.
Il faut y
aller le jeudi ou vendredi.
Cool. Voilà. Je ferai la réacte le lendemain, c'est pas grave.
N'hésitez pas jusqu'au début du mois de mars. Merci Adil d'être venu dans le
C'est fini pour moi.
C'est fini pour moi.
Ça y est, je m'en vais rester. Je vais parler de l'OM.
Tu m'as que de respirer au vieux.
Non, parce que moi je voulais défendre De Zerbi.
Reste 20 minutes.
Tu l'as vu toi?
Allez.
Oui.
Eh ben, Adil Rami va rester avec nous. On vous attend, supporters de l'OM au 32-16. Est-ce que l'OM est sur la bonne voie? Tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
RMC 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h01 sur RMC. La deuxième heure de Rotten sans flamme du soir, c'est maintenant avec une équipe qui est toujours renforcée par Adil Rami. Il a voulu rester. Et oui, parce qu'il veut parler de l'Olympique de Marseille. Il veut parler de Zerbi. Et ben, avec grand plaisir, il est encore là. On est avec Benoît Boutron. On est avec Jean-Michel Larquet et avec Eric Dimeco. La première heure était de grande qualité. Donc, je vous conseille de la réécouter en podcast. Abonnez-vous à la chaîne Rotten sans flamme, comme ça on va atteindre des sommets. Et puis on vous remercie encore pour les audiences parce qu'elles étaient excellentes. Exactement. Sur le dernier sondage.
Merci à tous pour votre fidélité. Et on a un beau cadeau qui ferait plaisir à Eric Dimeco dans le quiz à 19h45, tous contre Rotten. Un an de café saveur noisette, le temps des cerises, maison de café qui vous propose irrésistible.
Par contre, j'aimerais bien qu'il nous l'envoie.
Adapté à votre mode de préparation. Donc il va être directement
sur saveur noisette, c'est bon.
Et tu gagnes un an de café après la pizza Dimeco. Hop, un petit café. Crac, comme ça c'est réglé.
Tu peux leur dire qu'ils nous envoient une tonne, plusieurs saveurs. Moi j'adore le café.
Il faut les payer, tu commandes sinon.
Non, mais qu'ils nous envoient, qu'on teste, comme ça on les mettra en avant.
C'est meilleur quand c'est gratuit.
On peut tester quand même.
Touche 4 ou quiz par SMS au 732-16. Bah, si Adil fait une publication sur les réseaux.
Mais le temps des cerises, c'est pas une marque de fringues de base.
J'avais l'impression.
Non, c'est une chanson. C'est une chanson.
Non, mais c'est une marque de fringues, mais ça c'est autre chose, je pense.
À 19h30, un invité exceptionnel. Pap Gueye, le héros de la finale de la Coupe d'Afrique, héros sénégalais, sera avec nous. Pap Gueye, juste avant la célébration.
Quelle frappe il a
au Sénégal. Mais tout de suite on parle de l'OM parce que ça y est, Eric Dimeco reprend du poil de la bête.
Waouh.
En bande organisée, personne peut nous canaliser.
Greenwood qui remet à Mourinho le centre et le but. L'ouverture du score signé Guiri.
Oh, phénoménal.
C'est vrai que sur le terrain on s'est bien senti tous ensemble, beaucoup de plaisir.
Oh, mais Sam Greenwood, ça a été vite, beaucoup trop vite pour les Angevins.
Et oui, et oui, et voilà. Le sport est récompensé.
Et le troisième pour les Marseillais. Cette fois c'est Ahmed Junior Traoré.
Voilà, le beau jeu est récompensé.
Avec le quatrième. C'est incroyable ce qu'on vient de voir. Pendant une minute, il n'y a qu'une équipe sur le terrain.
Je remercie mes enfants, ma femme, mes petits-enfants.
Attention Pachaillot, est-ce qu'on va aller voir le cinquième? Et avec Ofé qui se trouve 5-1 pour l'Olympique de Marseille.
J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à Tourbeau comme ça.
Vous écoutez RMC, vous aimez bien?
Non.
En bande
organisée. C'était vendredi en conférence de presse.
De Zerbi.
Question de Florent Germain, est-ce que vous aimez RMC? Non, mais il a dit non, j'écoute pas. Je n'écoute pas.
Il viendra dans une certaine émission.
Non, mais qui va vous dire que le match contre Angers c'était pas magnifique?
Ah, c'était magnifique.
Il a le droit de pas aimer, du moins.
Il a le droit de pas aimer, mais il a précisé lui-même sa pensée. Là, on a fait le montage parce que c'est drôle, mais je préfère le dire. Cette prestation collective aboutit donc face à Angers. Victoire 5-2 des Marseillais. Il y avait 4-0 dès la 40e. Très bon match de Guéry et Traoré qui ont longtemps été blessés. OM inspiré, impressionnant, mais qui s'est un peu relâché en seconde période. C'était d'ailleurs le seul regret de Roberto De Zerbi. Écoutez.
Bien giocato, molto bene, penso.
On a très bien joué ce soir. Je pense que ça a été la meilleure première mi-temps du point de vue de la qualité du jeu depuis mon arrivée, honnêtement. Après, c'est sûr que ce but en fin de première mi-temps, c'est dommage. Ça nous a énervé plus qu'autre chose. Après la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a joué un petit peu moins bien, mais je pense que c'était aussi lié aux caractéristiques des joueurs. Mais le deuxième but est différent du premier parce qu'il arrive sur un aspect technique. Il faut qu'on arrive à bien jouer le ballon, à trouver des espaces, à chercher le joueur, chercher les coéquipiers entre les lignes. Si on force, on risque de créer trop d'espace pour l'adversaire. Après, j'espère qu'on pourra faire encore 10 matchs d'affilée. Il est comme le match de ce soir.
Dobbiamo continuare, dobbiamo fare 10 partite di questo livello.
L'OM toujours troisième de Ligue 1, 2 points d'avance sur Lyon, 8 points de retard sur Lens, le leader, mais l'OM, meilleure attaque du championnat. D'ailleurs, c'est jamais vu depuis 50 ans. L'OM a marqué 69 buts depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Énorme semaine, on le rappelle. Réception de Liverpool mercredi et réception du RC Lens samedi. Rotten se chauffe. Est-ce que l'OM est sur la bonne voie à 32-16, Jérôme?
Oui, heureusement qu'il faut être positif avec l'Olympique de Marseille. Autant on peut les critiquer quand ça va pas et qu'on recherche un style contre ce genre d'équipe, parce que je les vois arriver, ceux qui critiquent tout le temps et qui ont du mal à avoir du positif à Marseille, de dire bon bah l'adversaire il est pas incroyable. Oui, mais sauf que quand ils ont perdu à domicile contre Nantes, Nantes était inférieur à Angers et pourtant Nantes a été supérieure à Marseille. Donc là il faut, c'est un match à l'extérieur, en plus tu sais très bien que quand tu te déplaces, c'est pas Adil qui va me dire le contraire, quand tu te déplaces avec l'Olympique de Marseille ou avec ce genre d'équipe, tu veux les supporters, les joueurs adverses, ils veulent t'attraper dans tous les cas. Donc ils sont surmotivés. Là Marseille d'entrée, ils ont dit c'est nous les patrons, on est là, on est sur la confiance de ce résultat contre le PSG, moi ce match contre le PSG dans le contenu au Koweït. Derrière, il y a eu 9 buts contre Bayeux. Mais quand même, il faut les mettre et il faut les et on a vu de l'épanouissement de la part de certains joueurs et puis le renfort de certains, des joueurs qui étaient blessés comme Traoré par exemple, Gouiri revient. Ouais. Je trouve que ils ont une dynamique de groupe là pour l'instant. Alors j'espère que ça va durer parce que avec De Zerbi, on n'est pas à l'abri qui commence à faire son turnover et à nous dire ah non, mais lui il peut pas jouer 3 matchs en une semaine, c'est trop, donc on va le sortir et tout ça, et puis là ça fout un peu le bordel dans le groupe et il suffit à Marseille. Et encore une fois, c'est pas Eric ou Adil que je vais dire le contraire. Il suffit que il y ait un résultat qui tourne pas dans le sens des Marseillais. La déception est à la hauteur, si tu veux, des attentes. Et donc, à partir de là, on recule encore. Là, ils sont sur une bonne dynamique. Tant mieux qu'ils continuent comme ça. Franchement, moi, la première mi-temps, je suis d'accord avec De Zerbi. On a vu un OM conquérant qui prend le ballon, qui a de la personnalité, des joueurs offensivement. Il y a de la créativité dans le jeu. C'est ce qui manque cruellement sur certains matchs de Marseille. Là, on voit, et quand même, quand tu vois, de toute façon, tu vois la compo d'équipe, tu vois Hojbjerg, tu vois le petit Nadir au milieu de terrain. Déjà, Hojbjerg, même si c'est un joueur plus défensif qu'offensif, Nadir, il a quelque chose dans le pied, tu vois, il t'éclaire le jeu. Traoré, il te fait du bien sur le côté, il a beaucoup d'activité, un peu comme Pachao, mais je trouve qu'il est. Il est moins lisible que Pachao. Tu vois, Pachao, on sait ce qu'il aime faire.
Créatif.
Voilà, ouais. Il invente des choses aussi. Et donc pour moi, là, oui, tous les feux sont ouverts avant de recevoir Liverpool. Ils jouent leur qualif. C'est génial de jouer à domicile contre Liverpool. T'es en pleine confiance. Écoute, vas-y. Hein.
Jean-Mi.
Oui, enfin, moi, je pense que d'abord, j'ai entendu. Ah oui, c'était contre Angers. Il faut dire quand même que Angers, même si depuis qu'ils ont perdu
pour Chambray.
Ah, tu as dit le contraire ?
Non, mais c'était pour Chambray que j'ai dit ça. La preuve, je viens de te dire. Oui, bon. Contre Nantes, et ils perdent et Nantes est inférieur à Angers.
Non. Et sans doute que cette équipe d'Angers, comme aurait dit notre regretté coach Courbis, c'est une équipe. Elle l'a prouvé jusqu'à présent. C'est pas très brillant, mais elle est emmerdante à jouer. Et leur en mettre 5, c'est pas anodin.
C'est vrai.
Ça, c'est pas anodin. Ça, c'est le premier point. Après, les gars, on va quand même se calmer un petit peu, mettre le pied sur le ballon. C'est vrai, ce match-là est bon, voire même très bon par moment. Il y a pour moi ce match qui m'a étonné, dans le bon sens du terme, contre le Paris Saint-Germain, le trophée des champions. J'ai trouvé là qu'il y avait des vrais progrès. On va peut-être oublier le match contre Bayeux. On va peut-être pas en faire des caisses là-dessus. Donc ça fait 2 matchs que l'OM est au niveau où on l'attend depuis le début de la saison.
Il y a de la
confiance. Donc ça fait 2 matchs, 2 fois 90 minutes. C'est déjà bien. Allez, c'est bien. On peut dire quand même que là il y a deux passages à franchir qui sont intéressants. Ouais. Le leader du championnat dans 8 jours et Liverpool. Ce samedi.
Oui.
Eh ben oui, dans une semaine, quoi. Oui, d'accord. Oui, on est bien d'accord. Dans 5 jours. Et Liverpool que j'ai vu contre eux, c'était Burnley.
Burnley.
Ouais. Ouais, j'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé conquérant. Donc il y a des choses à jouer. On verra davantage si les progrès, comme vous l'avez dit, le retour de Traoré, bon petit joueur, il m'a fait bonne impression. Ouais, ouais. Le retour de Guiri, qui est pas mal du tout, un peu de stabilité dans l'équipe, même s'il a encore changé tactiquement contre Angers, c'est un peu compliqué. Et samedi, puisque il faut être précis avec Benoît, et samedi, on pourra être plus définitif sur les progrès de l'Olympique de Marseille.
Bah, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Eric et Adil.
Et du coup, hâte d'être lundi prochain, parce que justement, on aura deux matchs de référence. Alors moi, je suis très content de travailler avec Jean-Michel ce soir, mais j'aurais aimé quand même avoir mon Duga du lundi pour discuter de nos débats éternels sur
deux Zerbi,
c'est la faute des joueurs, c'est la faute de l'entraîneur. moi, mon propos depuis le début de la saison, c'était de laisser du temps et surtout ne pas oublier qu'il y a eu un gros recrutement, notamment derrière. Donc je demandais un peu de temps et surtout j'étais pas contre ce que disait Duga parce que il y avait malgré tout des matchs qui nous plaisaient pas, donc mais sauf que je mettais toujours les bémols par rapport aux blessés, et pour moi depuis le début de la saison De Zerbi n'a jamais eu tout son effectif, voire même donc une ébauche d'équipe type, et là on peut quand même faire un constat, et là où Jean-Michel a raison, c'est qu'on va attendre un peu quand même, hein, parce que on sait que on a déjà vu tout et le contraire depuis le début de la saison. Mais il y a un truc quand même, puisque en début de saison, en tout cas dans la première partie de saison, le match contre Paris où tu gagnes à la maison et où on voit du pressing, alors il y avait les bémols des manques du côté du PSG. Sauf que dans cette équipe-là, il y avait Guiri devant. Et comme par hasard, Guiri revient. Et tu fais le meilleur match. Moi, le match d'Angers, je veux même pas en parler parce que des bonnes mi-temps, on en a vu depuis le début de la saison. On n'a vu 90 minutes.
Oui, c'est vrai.
Par contre, moi, comme Jean-Michel, j'ai beaucoup aimé le match de l'OM contre le PSG au Trophée des Champions. C'est le meilleur match sur 90 minutes de l'OM cette saison. Je veux pas prendre l'Ajax parce que l'Ajax, tout le monde leur a roulé dessus. Ouais. Mais là, il n'y avait plus d'excuses des absents. Là, il n'y avait plus des enfants là sur le terrain.
Ils avaient l'équipe.
Et l'OM a été supérieur, même au PSG. L'ont reconnu le PSG. Dans cette équipe, il y a Medina qui est revenu. Tu m'enlèveras pas de l'idée que Guiri amène du lien dans le jeu. Alors que Aubameyang, c'est une flèche devant, et du coup, tu l'utilises avec ses qualités. Alors il pique un peu moins peut-être qu'à l'époque, mais il met des buts. Il a fait le job. Sauf que Guiri, pour moi, il amène du lien. Quand tu as Hoiberg au milieu, le petit Traoré, moi je veux le revoir, parce que peut-être que tu as raison Jérôme, peut-être qu'il peut prendre la place là-bas. Medina derrière qui amène du caractère, le retour d'Aguert là.
Et même
Kondogbia qui a joué sur le match contre Paris,
qui avait été très bon
parce que moi je vais te dire, sur les gros matchs, tu mets Hoiberg, Kondogbia avec derrière Medina, Aguert ou à 3 ou à 2 dans l'axe avec écoute et Guiri devant pour
il y a beaucoup de techniques, c'est solide, vaut mieux jouer comme ça.
Voilà, et du coup, on reparlera justement.
Abdelli,
qui est le joueur d'Angers là.
Rassurez-moi, ils vont jouer à 11 quand même, parce que vous voulez.
Intéressant de t'avoir, Adil. Ouais. Vous me sortez Pavard de l'équipe type de l'OM, parce que là il a pas joué. On dit que Marseille a fait une très bonne prestation avec une défense à 4, c'était pas l'air dit.
Après dans les compos il change, parfois il joue à 4, parfois il joue à 3. À 3 tu peux très bien le mettre.
Moi, écoute, pour moi, je sais pas ce que t'en penses, Adil. Moi, derrière, je vois, et on en a déjà parlé, je vois Pavard à droite, du moins à 3, défense à 3, Pavard, Aguerd et Medina.
Et c'est Balerdi que tu sors alors.
Oui, parce que pour moi, les trois là, ils t'amènent surtout Medina. Moi, j'aime bien son état d'esprit. Tu vois, c'est chiant là. C'est chiant. Il a t'as envie de l'insulter.
Il vaut mieux l'avoir avec toi que contre.
Exactement. Et puis, c'est complémentaire les trois. Et puis, ça, c'est important, ça, que ça soit complémentaire.
Ah bah ça, tu t'es mieux placé que moi pour en parler. Derrière la défense à trois, vaut mieux être complémentaire.
T'as raison. Mais le problème, la question qu'on oublie aussi, c'est de savoir comment Naïef va revenir. Parce que le coup psychologique qu'il a pris pendant la CAN.
Oui, mais ça va durer quelques temps, mais à terme.
C'est pas lui qui a raté le penalty. Hein.
Non, bien sûr. Mais bon,
c'est intéressant ce que tu nous as dit, Adil. Tu trouves qu'on est trop dur avec De Zerbi habituellement ici, parce que tu nous écoutes.
Moi, je suis team De Zerbi. Le football qu'il propose, je kiffe. Donc, le seul truc que je lui reproche,
c'est le turnover depuis le début de la saison.
Le turnover qu'il propose. Alors, moi, c'est compliqué. Juste en étant défenseur. Moi, je suis défenseur central. plus j'enchaîne, mieux je me sens. Voilà, c'est la seule chose que
voire même pour les automatismes, Adil. Moi, c'était mon propos. Moi, ça me gonfle quand il change tout le temps.
Et
de combo derrière,
Eric, Eric, pourquoi encore une fois, alors que tout se passe bien, pourquoi encore il change même en cours de match contre Angers?
Ouais, bon, après, Angers, il mène 4-1 à la mi-temps.
Après, Jean-Michel. Après, là, je pense quand même que, il a une dizaine de matchs, hein, même pas un mois et demi, d'après ce que j'ai vu. Ouais, là, il va être obligé d'être dans la gestion. Surtout quand tu gagnes un match facilement, tu reposes les mecs, quoi, tu vois.
Après, la gestion, je suis désolé, Eric, t'as raison, mais la gestion, il l'a déjà eu sur la première partie de saison où il y avait beaucoup moins de matchs. Donc, automatiquement.
Non, mais ça, c'était son défaut. Pour moi, c'est son défaut. Je suis comme Adil. Moi, j'aime quand tu joues derrière, et surtout qu'il y a eu beaucoup de changements.
Je vous pose une question.
Les Pavards.
J'espère qu'il va être dans ce sens-là. Mais là, tu vas jouer Liverpool. Mmh. D'accord? Donc, t'as récupéré tout le monde. Donc, pour moi, contre Liverpool, tu dois avoir tes trois défenseurs, là, que je viens de dire tout à l'heure.
Sans Naïef.
Sans Aguerd, parce qu'il vient de revenir. Donc, au pire, tu mets Balerdi. Mmh. D'accord? Tu mets Emerson à gauche, Wea à droite. Les deux dans l'axe au milieu, Hojbjerg, Kondogbia, parce qu'en face, il y a quand même du répondant. Et le trio devant, pour moi, Traoré, parce que là, il a enchaîné, il est bon, plus que Pacharo, Guiri et Greenwood. Du moins, et si l'équipe, moi, je pense que l'équipe comme ça, elle a quand même de la gueule. Si elle tire un bon match et un bon résultat contre Liverpool, tu dois être dans la continuité. Contre Lens, ne va pas commencer à me dire que trois jours après, contre Lens, ils peuvent enchaîner.
Vous oubliez justement le principal défaut de Roberto De Zerbi et son amour de la surprise de dernière minute.
C'est
tout ce qu'il aime.
C'est ça qui est beau dans le football.
Sortir un jeune comme ça, dire moi, j'y ai pensé, vous ne l'aviez pas vu, j'avais raison, j'avais ci, j'avais ça.
Et nous expliquer que Vaz, c'est le meilleur attaquant, et puis ils l'ont transféré. Nous expliquer que Bacola, c'est la surprise du chef, vous allez voir, depuis il a pu jouer.
Et tu as oublié une donnée sur le match de Liverpool, puisque c'est un débat éternel entre nous depuis qu'on bosse ensemble et avec Duga. Tu ne m'enlèveras pas de l'idée que les joueurs appuient sur le bouton quand ils veulent. Et c'est pas le hasard, comme contre Paris, d'un coup, y a Paris en face, d'un coup, ça recommence à faire le pressing, ça met le pied, ça joue et tout.
Y a une
excitation, voilà. Donc là, contre Liverpool, moi, je suis pas inquiet, de l'état d'esprit contre Liverpool. Je suis pas inquiet, surtout s'il y a l'équipe que tu as donnée, mais bon, je suis pas inquiet.
T'es pas inquiet, mais le style, est-ce que vous savez, vous, s'il va aller chercher, il va harceler, comme il l'a fait contre le PSG, ou il va subir, comme ça a été le cas contre la Talenta, ou d'autres.
Eric est en train de te dire que quels que soient les propos de Zerbi dans la préparation de ce match, ce sont les joueurs qui appuient ou qui n'appuient pas sur le terrain.
Moi j'ai du mal à ça sur les débuts de match,
c'est impossible qu'il joue ce match-là.
Je sais pas, je me mets à la place du coach, je me dis avec le voyage, toute la pression qu'il a subi au Maroc,
c'est deux heures de vol,
mais le choc psychologique il existe,
ça reste un truc. Et là ça arrive vite,
mais quand tu as la tête dans le seau, le mieux c'est de jouer.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai, je suis d'accord avec Eric, quand même.
Moi, c'est un élément super important pour l'Olympique de Marseille, évidemment. Ouais. Naïef Aguer, c'est le défenseur de l'Olympique de Marseille.
Surtout qu'il y a une différence de niveau avec Balerdi, je suis désolé.
Accueillons Joris, supporter de l'OM qui veut participer.
Joris.
Bonsoir, messieurs.
Ça va, Joris?
C'est Joris.
Ça va?
Joris, il est excité de la semaine. Liverpool arrive alors. Comment tu vois cette OM? Elle te fait plaisir, cette équipe, en ce moment?
Alors, je suis excité depuis vendredi. Parce que n'importe quel résultat, je voulais appeler. Qu'on gagne ou qu'on perde contre Angers, j'avais prévu, dans mon emploi du temps de lundi, d'appeler. C'est dommage qu'il n'y ait pas du gars. Je suis très déçu qu'il n'y ait pas du gars.
Il sera là demain.
Il sera là demain. Eh ben, je vais dire ce que je pense et demain, s'il veut répondre, c'est avec un grand plaisir. Mm-hmm. Que vous soyez d'accord ou non avec De Zerbi, l'entraîneur, c'est votre métier, vous avez raison. Des fois, il fait des changements, on n'est pas d'accord. La tactique, on n'arrive pas à l'avoir. Mm-hmm. Si vous voulez, depuis qu'il est là, on tourne à 2 points de moyenne en championnat. Ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Très longtemps.
Et il a raison.
Au moins 3 ans.
Voilà, et le reste, on est en passe de qualité pour la Ligue des Champions.
T'es à 8 points de Lens quand même.
On est à 8 points de Lens, pas de problème, mais c'est Lens surperforme, font une très bonne saison, ça n'empêche rien, bravo à eux. Nous, on a perdu quelques points sur des matchs qu'on n'a pas bien gérés, et ça c'est la vérité, on a perdu des points bêtement. Mais comme l'avait dit Eric, là, c'est pas parce que je suis un fan d'Eric Dzeko, mais pour gagner Nantes, Angers, Toulouse, il n'y avait pas besoin d'avoir Pep Guardiola sur le banc de l'Olympique de Marseille. Mais ça, c'est encore un autre débat. mais ensuite que vous ayez toujours
c'est-à-dire pas besoin d'avoir Pep Guardiola. Donc ça veut dire que ces matchs-là, les matchs cacahuètes entre guillemets, ça suffit. En fait, t'as pas besoin d'entraîneur quand t'es joueur.
Non, ça suffit pas. Mais c'est que les joueurs le font pas. Pourquoi contre Nantes on donne ce match-là et contre Paris 4 jours après on fait ce match-là?
Et est-ce que tu peux être
le fait certainement de l'entraîneur, mais pas que.
Ah non, donc, non, mais attention.
Il y a peut-être un coup de bouton et tout, certainement.
Attention, Joris, on n'a jamais dit que c'était que de la faute de Zerbi quand il se plante contre Nantes.
J'y arrive.
Et qu'est-ce que tu veux dire?
Vas-y.
Ah bah, c'est pas les joueurs qui se sont plantés contre Nantes, tiens, ça c'est la meilleure.
Bah, si.
Les deux,
si,
non?
C'est les deux, je pense.
Vas-y, Joris.
Mais après, ce que je supporte de moins en moins, et c'est à charge souvent, c'est qu'après, on juge l'homme tel qu'il est. Alors là, maintenant, et Jérôme n'a pas pu s'empêcher de le dire, en gros, là, parce qu'il avait dit de Vaz qu'il était très bon la saison dernière, qu'il brûlait la pelouse. Oui, il a dit ça. Et que le club l'a vendu, c'est que d'un coup, il n'est pas très honnête. Ou la dernière fois, il était un faux modeste. Ou il était, comment l'avait dit Christophe la dernière fois.
Je ne sais pas, il a dû en dire beaucoup parce qu'il ne l'aime pas, oui, c'est vrai.
Oui, mais voilà, mais à la fin, c'est une fixette qui, moi je peux l'entendre, qu'il soit une fixette sur lui. Mais en vrai, ça apporte quoi dans l'émission, honnêtement? À part dire, si on n'est pas d'accord avec la tactique, moi on peut en parler de tactique jusqu'à après-demain. Mais que ce soit un faux modeste qui soit pas honnête, je regarde toutes les conférences de presse de Dezervi. Lorsque l'OM perd, il a rarement dit que c'était uniquement de la faute des joueurs. Il dit toujours,
Joris, quand il te dit Nil Mopé, moi j'en veux 11 sur mon nez, sur le terrain quand l'OM joue, et quand tu vois que Nil Mopé, il est à la cave 3 mois plus tard et qu'il joue plus jamais, tu vois, ça fait partie aussi.
Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Tu recrutes Amine Gouiri et Robinho Bas qui se montre et il est plus fort que Nil Mopé. Vous êtes des anciens joueurs pro.
Mais Joris, même avec Gouiri,
il a toute l'affection du monde entier.
Même avec Gouiri, rappelle-toi le début de saison, Gouiri le faisait pas jouer. Après, il s'est blessé, ok, mais il le faisait pas jouer. Et pourtant, on avait l'impression que l'année dernière, c'est pas une impression, quand Gouiri est arrivé au mois de janvier, l'OM a continué à enchaîner des bons résultats et il le doit à la qualif en Ligue des Champions, beaucoup à l'apport de Gouiri. Ouais. Et juste un mercato d'été. Et Gouiri, limite, tu l'avais mis de côté. Donc, en fait, il est plein de contradictions. Après, même dans sa com, dernièrement, et c'est pour ça qu'on a été critique aussi dernièrement, au lieu d'analyser les matchs de l'OM, la difficulté d'être constant, régulier, même lui, dans ses compositions d'équipe, il te dit, moi, je lis mon avenir à Mehdi Benatia. Donc, si Mehdi Benatia, il s'en va, moi, je m'en vais. Non, mais ça veut dire quoi, en fait? Parle-nous du terrain, et pourquoi, des fois, il y a des incohérences tactiquement, pourquoi les joueurs ils tournent autant, pourquoi il y a un manque de stabilité. Et après, il a ses raisons. Nous, on est là dans la critique et c'est pour défendre Duga aussi, parce que moi aussi, cette année, je suis un peu plus critique sur Dezerbi par rapport à l'année dernière. Et pourtant, Joris, je vais te dire, moi, je fais pas un délit de sale gueule, parce que Dezerbi, j'aime l'attitude de Dezerbi. J'aurais aimé être entraîné par ce genre d'entraîneur.
Allez, ça, c'est vrai. Si Joris qui est venu au 32-16, tu peux rappeler demain si tu veux parler à Christophe Dugarry, qui sera dans Rotel sans flamme dès 18h. Et c'est le moment de recevoir le gagnant du jeu, Jérôme, celui qui aura la chance d'aller assister à Marseille-Liverpool. Qu'est-ce qu'il a dit?
Maladie de Gilles Latourette parfois.
Ah, d'accord. Ok, je comprenais pas. Un geste de radio qui était difficile à comprendre. Nicolas est avec nous. Salut Nicolas.
Salut Nico.
Salut.
Bienvenue Nico.
Salut à toute l'équipe.
Écoute, Nico, t'es le grand gagnant de notre jeu.
Magnifique.
L'expérience RMC.
Les deux places, les deux
Marseille,
maillots,
Liverpool.
Ce qu'il faut.
Ah, c'est top.
C'est fantastique. C'est top. Tu vas y aller avec qui, Nico?
Je vais y aller avec le fils de ma compagne. C'est un grand fan de l'OM depuis la première heure. Et moi, je suis jamais allé au Vélodrome, donc.
C'est la première en plus. C'est fou.
Voilà.
Tu vas au Stade de France.
Tu vas voir. T'es déjà allé au Parc des Princes?
C'est encore mieux.
Je suis déjà allé au Parc des Princes.
Bon, c'est un tout petit peu moins bien.
C'est différent.
C'est un tout petit peu moins bien, mais c'est très bien.
C'est un cran au-dessus. Là, tu vas sentir des sensations.
Bon, Nico, en tout cas, amuse-toi bien, tu vas te régaler. Franchement,
merci. Voilà, bon match à toi. Adil, tu vas faire 2 heures avec nous.
Je pars.
Ça y est. Tu vas avec nous.
Écoute, je vais rentrer chez moi. Je vais peut-être streamer, tiens. Je vais streamer un peu, tu vois.
Reste avec nous jusqu'à 20h, comme ça, tu
vas streamer après.
Bon, ok, bah.
Non, il va streamer.
Merci, les gars. Et merci, vraiment, pour l'accueil. Et vive Dezerbi.
Le jeu de la vérité à Apollo Théâtre, c'est 19h30 la première.
Ah, mais voilà, tu vois, je t'avais dit.
C'est 19h30 mercredi. Voilà. Donc en plus, tu pourras voir le match de l'Olympique de Marseille.
Magnifique.
Allez, merci à tout le monde. Allez, ciao, RMC, dans un instant. Pape Gueye, invité exceptionnel. Tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h29 sur RMC, on est là, on est bien. La dernière demi-heure de Rotten sans flamme, de ce Rotten sans flamme exceptionnel de ce lundi soir. On est avec Eric Dimeco, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron. On remercie encore Adil Rami d'être venu, Adil, pendant une heure et demie dans Rotten sans flamme. C'est pas prévu, mais il s'est invité au débat sur l'Olympique de Marseille, sur Roberto De Zerbi, et surtout on lui souhaite bon courage pour la pièce de théâtre de mercredi soir.
L'Apollo Théâtre, commence mercredi soir 19h30.
On lui dit même merde, hein.
Exactement, ça se dit entre artistes.
Enfin, c'est comme
Eric,
ça qu'on dit.
Eric va nous confirmer parce que c'est un artiste aussi.
Ouais.
Ça se dit, je crois. Dans un quart d'heure, le quiz, tous contre Rotten. Un an de café saveur noisette, des pizzas aux anchois et
du fromage. C'est dégueulasse.
Ah ouais, je pourrais, quelle horreur. Donc du café à gagner, de la marque du temps des cerises. Une maison de café qui vous propose son irrésistible café noisette, adapté à votre mode de préparation, café en grains, moulu, capsule ou dosette. C'est livré directement chez vous pour vous inscrire. 32-16 touche 4 ou quiz par SMS au 732-16. Mais c'est l'événement sur RMC.
Il est où ?
Pape Gay, le héros sénégalais, auteur du but victorieux et l'invité de Rotten sans flamme ce soir, Jérôme.
Bravo Pape, salut, ça va ?
Salut, ça va et toi ?
Écoute, on est en grande forme et j'imagine moins que vous. Vous avez retourné le peuple sénégalais, vous êtes revenu de quasiment de l'enfer. Écoute, explique-nous comment ça s'est passé déjà, la célébration, le titre, la nuit. À mon avis, vous avez pas beaucoup dormi. Hein.
Ouais, moi je sors de une heure de nuit. on n'a pas dormi, on a fêté un peu entre nous. C'est une fierté de remporter cette deuxième étoile pour le pays. C'était un match avec beaucoup de suspense, beaucoup de choses qui devraient pas se passer aussi dans le football, mais voilà, on a su rester concentré, on a su y croire aussi, parce que c'était pas facile de jouer devant plus de 60 000 Marocains. Donc il fallait avoir du caractère et c'est ce qu'on a fait. C'était un match compliqué, on a su mettre ce but-là et gagner ce match.
Ouais, et puis quel but, hein. En plus c'est toi qui est le responsable de ce but. Tu le dois à personne celui-là, parce que franchement la frappe du gauche, j'étais gaucher, ça m'a fait plaisir de voir une frappe comme ça. franchement bravo, félicitations. Okay. Tu peux nous raconter ce but, la détermination que tu as au début de l'action déjà, parce que on voit une récupération, on voit la talonnade fantastique de Sadio, et puis derrière ça t'appartient.
Ouais, exactement. On savait qu'on pouvait les avoir en contre. On a cette récupération de balles de Sadio qui fait une belle course et qui talonne pour Gana Gueye. Et à ce moment-là, je sais que je dois être lancé. Et il me la met parfaitement. J'arrive à contrôler. Au début, je sens pas trop Hakimi qui fait son retour. Mais une fois que je le sens proche de moi, je rajoute une touche et je sais qu'à ce moment-là, il peut plus me toucher parce que j'arrive aux abords de la surface. Et je frappe. Donc une frappe sans réfléchir, je tente ma chance et c'est dedans. Donc après énormément de fierté, énormément de c'est une folie en fait de délivrer tout un pays sur la fin comme ça. Donc c'est pour ça que ma réaction a été celle-là.
Je précise que d'ailleurs, cette interview a été enregistrée parce que vous aviez le vol à 17h et vous allez à Dakar pour célébrer cette deuxième étoile avec le peuple sénégalais. C'est même la deuxième pour toi parce que tu étais déjà là en 2021. La différence, c'est que là, tu es le vrai héros de ce match. C'est toi le buteur, un but fantastique, Jérôme l'a dit. Et tous les Sénégalais peuvent te dire merci parce que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé hier qu'aujourd'hui était un jour férié. Et payé. Sénégalais.
Et il a dit payé Pape Gueye.
Et voilà, donc Pape, je pense que le. Eh ouais, non, mais Pape, le peuple sénégalais, te sera reconnaissant pendant des années et des années, quoi, c'est sûr.
Ouais, non, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, c'est une belle chose pour le pays. Après, moi, je dirais pas que je suis le héros, je prendrais pas ce rôle-là parce que c'est le travail de toute une équipe, de tout un staff. On a vu aussi les supporters qui se sont déplacés. Notamment à Tanger, à Rabat. Donc ça nous a fait chaud au cœur, ça nous a donné beaucoup d'encouragement durant ces matchs. Donc en vrai, c'est un travail de tout un pays. Aujourd'hui, je suis celui-là qui marque le but, mais il y a un travail colossal de l'équipe, donc je tiens à les remercier.
Pape, tu veux pas tirer la couverture à toi, et tu as raison, c'est la victoire d'un collectif. Non, mais t'as raison. Par contre, je voudrais mettre en avant le vrai symbole de votre équipe, le vrai leader, c'est Sadio Mané, du moins qui a été énorme sur toute la CAN. Beaucoup critiquaient plus ou moins son talent. Je dis pas qu'il a disparu, mais voilà, le meilleur Sadio Mané était passé. Et puis en fait, on l'a vu à son meilleur niveau, franchement, à tous les niveaux, que ça soit sur le terrain ou en dehors, et on va revenir sur ce qui s'est passé. Vraiment, ça doit faire plaisir de partager le vestiaire avec un tel joueur.
Ouais, franchement, c'est une chance, hein. J'ai l'habitude de dire, c'est une chance d'évoluer avec une légende comme Sadio Mané. Moi, étant plus jeune, je regardais ses matchs quand il était à Liverpool, donc. Moi, Sadio, c'est un grand frère. Dès que je suis arrivé en sélection, il a été parmi les premiers cadres à me parler, à me dire même qu'il regardait mes matchs quand j'étais à l'OM. Donc ça m'avait surpris pour l'anecdote. Mm-hmm. Mais franchement, on est tous contents de jouer avec ce joueur. Il est important que ça soit sur le terrain. On le voit sur les prestations qu'il a faites durant cette CAN, mais en dehors aussi, parce que c'est un leader. Il prend souvent la parole dans le VCR. Son expérience, tous les trophées qu'il a gagnés dans sa carrière. Donc non, c'est une chance de l'avoir. On espère le plus longtemps possible. Et voilà.
Oh, il sera là à la Coupe du Monde déjà.
Bah oui, contre l'équipe de France notamment.
Ouais, j'espère. Ah bon. J'espère qu'il sera là à la Coupe du Monde. Et
bah non, on n'espère pas, mais lui, à mon avis, il sera là.
Pape Gueye, le buteur de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations hier soir et l'invité exceptionnel de Roten sans flamme. Pape, on est obligé de revenir sur ce scénario un peu fou, sur cette fête gâchée dans la finale de la Coupe d'Afrique hier soir, cet enchaînement de décisions qui a provoqué des débordements. Hein. D'abord, le but qui vous a été refusé pour une faute sifflée préalablement sur Hakimi sur corner, ensuite l'enchaînement, la faute sur Brahim Diaz, l'arbitrage vidéo, le pénalty accordé, les 24 minutes d'interruption. Le reproche qui vous est fait depuis quelques heures par l'ensemble des observateurs, c'est donc d'avoir décidé à un moment donné de quitter la pelouse. On a vu votre sélectionneur Pape Thiot vous dire de quitter la pelouse pour ne pas rester, ne pas cautionner ce qui était en train de se passer. Est-ce qu'avec le recul, tu le regrettes? Et est-ce que tu dis merci notamment à Sadio qui vous a incité à revenir sur la pelouse, terminer ce match qui finalement a eu une issue heureuse parce que Brahim Diaz a loupé son tir au but, enfin son pénalty, et vous avez pu gagner la CAN en prolongation?
Ouais, bah vous avez, comme vous l'avez cité, il y avait eu pas mal de faits de jeu durant ce match. Après, sur les décisions qu'on a pu avoir, on est des êtres humains, donc on a senti un peu une injustice, comme vous l'avez dit, sur le but refusé. Mais voilà, comme vous l'avez dit, Sadio nous a dit de tous revenir sur le terrain, que on devait jouer ce match, et c'est ce qu'on a fait. Au final, à l'arrêt de Edouard Mendy, donc je tiens à le féliciter, et on a su pousser, et on a su marquer et gagner ce match. Donc je pense que c'est le plus important dans tout ça. Moi, je vais retenir le positif, et le positif, c'est qu'on a su remporter ce match.
Mais Pape, moi juste, alors je veux pas tirer les verres du nez, mais quand vous rentrez au vestiaire, déjà c'est votre sélectionneur qui vous dit de rentrer au vestiaire, et ensuite une fois que vous vous retrouvez dans le vestiaire, que y a pas tout le monde, parce que Sadio, lui, il était Sadio Mané était sur le terrain, bord pelouse, vous dites quoi en fait? Vous dites on n'y retourne pas, c'est sûr, on va prendre la douche et puis on s'arrête là?
Non, moi honnêtement, moi j'étais bord pelouse avec Sadio.
D'accord.
J'étais pas rentré dans le vestiaire. Donc j'attendais un peu de voir ce qui se passait, il y avait pas mal de bruit. Il y avait un peu des échauffourées de tous les côtés avec les supporters. Donc j'attendais bord pelouse, et j'ai vu les coéquipiers revenir. Donc on a décidé de reprendre. Mmh. Et voilà, il y a eu ce pénalty, cet arrêt. Et le match a continué, et on a su le gagner, donc voilà, on est très contents. Très content.
Pape, juste un dernier mot là-dessus avant de te laisser partir célébrer au Sénégal avec tous tes coéquipiers. Il y a eu beaucoup de polémiques, il y a eu beaucoup de petites phrases autour de cette finale. Ça avait démarré avant, ça a continué pendant. Il y a eu également après. Il y a certains de tes coéquipiers qui ont dit dans quelques jours, on va dire, tout ce qui s'est passé. Il y a le flou autour de l'état de santé de Crépin Diatta. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui s'est passé ? On dit que voilà, le climat était hostile pour vous. Est-ce que toi tu peux nous le raconter ? Tu es un acteur direct, donc toi tu peux témoigner. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce climat était hostile ? Et voilà, quelles sont ces petites phrases ? Qu'est-ce qu'elles veulent dire finalement ?
Non, franchement, honnêtement, on a été bien accueillis par le peuple marocain durant tous ces jours. Hein. On était à Tanger, on était dans des bonnes conditions, dans un bon hôtel. Les terrains, ils étaient impeccables, donc on avait franchement rien à dire. Après, c'est sur les derniers jours, comme on a pu le voir sur les communiqués de la fédération, qu'ils ont dit que il y avait à l'arrivée, notre arrivée, il y avait pas mal de choses à améliorer, mais voilà. Après, on devait jouer ce match, cette finale. Il y avait Crépin Diatta qui était annoncé titulaire. Mmh. Et il se sentait pas bien dans le quart. Donc on sait toujours pas pourquoi. Et ensuite à la mi-temps, il y a eu Pape Matar Sarr. Juste avant le début du match, il y a eu Ousseyn Ounian qui se sentait pas bien. Ils ont un peu les mêmes symptômes, donc on sait pas, on attend toujours la réponse un peu du doc. Mmh. La chose positive dans l'histoire, c'est qu'ils se sentent mieux. Ils sont même là à l'hôtel avec nous, ils se reposent. Donc ils sont un peu réveillés en étant champion d'Afrique. Donc
ça va mieux. Ça va mieux, c'est comme ça.
Ouais, ça va beaucoup mieux. Mais honnêtement, on ne sait toujours pas pourquoi il se sentit mal.
Et autre question, est-ce que les relations à la fin du match se sont apaisées entre joueurs marocains et sénégalais? Parce qu'on a vu des belles images aussi, il faut le signaler. Oui, j'ai vu Naïef Aguerd avec Khalidou Koulibaly. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre?
Non, bien sûr, tout est rentré dans l'ordre. On est des compétiteurs, on veut tous gagner. Même moi, je joue avec Ilyas Akhomach, avec moi à Villarreal. Mm-hmm. Mais quand je gagnais du temps au sol, c'est lui qui m'a relevé. Mais il n'y a aucun problème, on est des frères. On sait tous la relation qu'on a entre... Sénégal et Marocain, c'est pas un match de foot qui va couper cette relation. On a bien été accueillis par le Maroc, donc voilà, on remercie tout le pays du Maroc. Et voilà, aujourd'hui, la coupe, elle va rentrer à Dakar et on est très contents.
Écoute Pape, en tout cas, tu as raison, la coupe elle est chez vous, profitez-en, c'est un titre magnifique pour vous, le deuxième pour toi. Merci. Tu rentres encore une fois dans la légende du football sénégalais et on te félicite avec ce but fantastique. Et j'espère qu'il n'y en aura qu'un hein, et que le 16 juin aux États-Unis, tu vas pas nous refaire la même hein, contre la France.
Ah, faut pas dire ça.
Écoute, en tout cas, voilà, c'est tout le mal que je te souhaite d'être toujours aussi performant avec et la bravo. Sélection et, ouais, et vraiment encore un grand, grand bravo, parce que sur l'ensemble de la CAN, c'est sûr qu'il y a eu, des, comme l'a dit Benoît, des choses sur cette finale qui donnent un petit goût amer à la finale de la CAN, mais sur l'ensemble, vous avez été incroyable, donc félicitations, vous la méritez.
Nickel, merci beaucoup en tout cas.
Bravo Pape.
Merci, c'est gentil.
Et merci à toi,
bon courage et bonne journée.
Allez, ouais, profite bien. Allez.
Merci, c'est gentil.
Salut.
Et un grand merci.
J'ai bien profité.
Ah ouais, j'imagine.
T'as bien raison. Et un grand merci à Fabrice Hawkins qui a permis cet entretien avec
c'est incroyable.
Le grand Pape Gueye.
Ouais, merci, lui aussi Pape. Va célébrer ça avec les Sénégalais. Salut Pape.
Merci beaucoup.
19h43 sur RMC, interview de Pape Gueye retrouvée sur rmcsport.fr. Dans un instant, l'explication finale. Jérôme Roten face à une doublette inédite, tous contre Roten. Roten contre Larquet Dimeco. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h47 sur RMC. On est là, on est bien dans Roten sans flamme. On finit l'émission avec le moment de Louis Gerbier, le quiz. C'est là que ça se gagne avec Jean-Michel Larquet et Eric Dimeco qui ont formé une équipe inédite. Vu qu'ils n'en gagnent pas beaucoup individuellement, des quiz à deux, ça va être compliqué. On est avec Benoît Boutron qui sera l'arbitre. Peut-être là pour la Roten aussi, pour faire gagner une des deux équipes. Et puis deux auditeurs, un super cadeau. On y va.
On y va.
RMC. Tous contre Roten.
Le problème de la doublette Larquet Dimeco, c'est qu'il ne supporte pas bien la pression. Louis Gerbier est là, salut Louis.
Salut l'équipe.
Salut Louis.
Ah, et on a deux supporters du PSG, tiens, pour ce quiz. Gaëtan et Julien, salut à vous deux.
Bonsoir, salut Jérôme.
Salut les gars.
Est-ce qu'il y en a un qui se dévoue pour jouer avec le reste du monde, Eric et Jean-Michel?
Moi, j'ai déjà joué avec Jérôme, donc je peux jouer avec toi.
Ah, c'est qui, hein, ouais. Julien ou Gaëtan?
Gaëtan.
Allez, Gaëtan, bah, joue Gaëtan avec.
Bah oui, il a déjà perdu avec Jérôme.
Non, il a gagné avec
Julien. Ah, j'avais gagné.
Ah ouais. Julien, ah, et Jérôme.
Comme d'hab.
Ah, c'est la seule fois.
Et le cadeau, c'est un an de café saveur noisette, le temps des cerises.
Ouais. Le temps des cerises, on vous attend. Hein. Donc envoyez ça à RMC, comme ça on goûtera un peu à tout.
Allez, c'est parti.
Et puis on fera plusieurs saveurs. Hein. Moi, j'aime bien le café intense.
Oh, allez.
Bonjour Jean-Michel, bonjour Eric.
Bonjour, comment ça va? Tu sais que vu ton arbitrage, tu vas finir arbitre à la CAN, toi.
Oui, bah écoute. Si on m'offre la mallette qui va avec, moi je dis oui. Hein. Le thème du soir, ça serait quoi par hasard?
Adil Rami.
Le Sénégal.
Non, bah la CAN.
Ouais, presque. Les Panenka. Ah bah oui.
Eh oui, les
Panenka. Comment faire autrement? Parce que hier. Allez, on y va. Question flash, quel joueur obtient la faute qui mène à la Panenka de Zidane lors de la finale 2006?
Malouda.
Bonne réponse.
Bravo. Crac, 1-0
pour Malouda, formé à la Berrichonne de Château.
Jean-Michel, il a vu le match? Ah oui, il l'a commenté.
Ah bah,
bon, bah, il s'en souvient pas. Ça fait 20 ans.
Allez, on enchaîne.
Ça vient déjà pas des émissions de la semaine dernière.
Une autre question flash. Panenka est un joueur tchèque.
Oui.
À l'origine de ce geste. Mais quel est son prénom?
Antonin.
Bravo, Eric.
Je crois que c'est Antonine.
Ouais, c'est Antonin.
Je crois que c'est Antonine.
Ben,
on dit Antonine.
Oui, mais enlevez-moi le point.
Ah, tchèque, oui.
C'est Antonine.
Oui, enlevez-moi le point. Oui, j'ai l'habitude avec le Kikadi. Allez-y.
Non,
c'est vrai que.
Antonin, c'est pas Antonine.
Non, mais si. Moi, j'ai demandé la page Wikipédia. C'est Antonin.
Non, c'est Antonine.
C'est limite.
Il y a Antonine Panen.
Et Eric, on te l'accorde, mais c'est la dernière fois alors.
On dit pas Panenka.
J'ai pas demandé l'accent de.
On dit pas Panenka.
J'ai pas demandé avec l'accent de Kourbinovski.
On dit pas Panenka.
Enlevez-le-moi comme ça. Enlevez-le-moi comme ça. Il finira la canne.
On dit pas l'arc, on dit l'arqué.
Ouais,
allez, partout, c'est pas
je pense que si un tchèque avait dit l'arc, il aurait eu bonne réponse. Mais bah tiens, question l'arqué, justement.
Benoît, qu'est-ce que tu fais? Tu es arbitre, supporter, qu'est-ce que tu fais?
Question l'arqué.
Qu'est-ce que tu fais exactement?
36-15, code de qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veulent.
Gerbier,
t'es un truand.
Non, c'est pas faux. 1989.
Cantona.
Oui, bonne réponse.
Oh.
Ah ouais, ça je la voyais arriver. Eric Cantona.
Coupe de France.
Coupe de France.
Contre qui? Contre Amiens, non?
Contre Beauvais.
Beauvais.
Bah, hey,
Beauvais à Amiens.
Vous savez quoi? 3 points pour celui qui me trouve le gardien qui a arrêté la Panenka.
Oh, attention, parce que
Eric, il a pas arrêté, le ballon n'est pas arrivé au but.
Beauvais. Bah ouais, mais il a eu le temps de se relever et d'aller l'arrêter.
C'est un gardien connu?
Non.
Bon, tu veux.
Ouais, c'est dur.
Non, arrête, il regarde là. Stop.
Allez, on enchaîne. Question auditeur.
Julien contre Gaëtan.
C'était Eddy Collery, hein, pour ceux que ça intéressait.
On l'embrasse. Ouais.
Chers auditeurs, en 2024, quel ballon d'or rate sa Panenka au tir au but en quart de finale de la Copa América?
Messi?
Oui.
Et qui a dit Messi? Gaëtan?
Gaëtan.
Okay. Merde. Ça fait deux partout.
Mars. Allez. Une question con.
Qu'est-ce que vous êtes con? Qu'est-ce que vous êtes con alors?
RMC, la question con.
Toi, tu veux qu'il t'insulte?
Il est là, Eric, au moins?
Non, il n'est pas là, Eric.
Dis-moi, c'est moi qui ai trouvé Antonine Panenka.
Ah là, c'est mieux.
Quart de finale de l'Euro 2012, séance de tir au but. Andreas Pirlo inscrit une Panenka.
Andreas Pirlo.
Il a inscrit une panne. Ils vont m'agacer aujourd'hui. Face à l'Angleterre de Joe Hart. Mais quel sosie de Gad Elmaleh venait de marquer son pénalty juste avant?
Oh purée. Gad Elmaleh. Ça veut dire.
Ah oui, je l'ai. Gad Elmaleh. Mais c'est incroyable. Ancien capitaine de
Montolivo. Montolivo.
Ouais,
le sosie officiel de.
C'est fou.
C'était la question. Hein,
ça va, je l'ai bien prononcé là?
Montolivo, excellent.
T'es très bon.
3-2 pour le reste du monde.
Allez, tu mériterais de gagner, Eric.
Question flash.
Attention, menace sur la régie.
Il y a beaucoup de menaces en plateau. Je suis distrait, c'est assez compliqué, mais on se bat.
Parce qu'il triche.
Pour l'amour du quiz. Quel joueur avait qualifié son équipe en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 sur une Panenka?
Hein? Quel joueur?
Quel joueur?
Mais de qualifier son équipe en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 sur une Panenka. Ouais. Donc c'était un huitième.
Un peu d'indice.
Il était sur le terrain hier.
Ah,
Achraf Hakimi.
Oui, bonne réponse.
Trois partout. C'est un quiz incroyable.
Ouais.
Et là, je sens que, qu'il y a de la pression, et c'est là qu'on voit que Jean-Michel a joué à une époque où il y en avait beaucoup moins.
Non, il n'y avait pas les réseaux.
Parce que, ouais, là, il la gère moins bien quand même. Allez, question Costil.
Oh oui, Greg, il la sort!
Il la sort.
Oh oui, main opposée, Richard.
Il est de retour.
Il est de retour.
Oh, ça suffit.
Ah, ça suffit.
Quel ancien gardien de Ligue 1 a manqué une Panenka en finale de
Coupe de la Ligue?
Le Lambeau.
Elle était facile, mais c'était obligé.
4 à 3. Non,
c'est scandale, donne-lui le point directement.
Comment non?
T'es parti après. Jean-Michel, tu connais ma probité. Jérôme est parti avant.
Ah, je connais ta probité. Il y a longtemps que tu l'as mise là où je pense, ta probité.
Mais moi, j'ai.
Tu as parlé de Jérôme
face au reste du monde. Je ne permets pas de remettre en cause.
Aïe, aïe, aïe.
Le score est remis à zéro.
Oh là 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 là. Voilà. C'est rageant.
Ah, c'est rageant.
Bah oui, c'est rageant. C'est rageant, mais c'est comme ça.
C'est rageant. Bah, on va finir avec une question flash.
Pas de menace.
Sinon, c'est moins un. On va faire comme à l'école. <C'est ça. rire> L'année dernière, le HAC s'est maintenu en Ligue 1, in extremis, grâce à un pénalty à la 99e minute. Une Panenka de.
Andrayou.
Moi je serais mais non, capitaine milieu de terrain. Allez,
milieu défensif.
Le héros.
Ndiaye.
Non, allez, pas Ndiaye. Nantes, Gênes.
Allez. Ancien Nantais.
Nantes,
qui
Gênes.
Ancien de qui?
Le Genoa, Nantes.
C'est le qui Google, ça c'est.
Ah, le qui Google.
Ah oui, le Genoa Touré.
C'est la plus grande arnaque de l'histoire.
Il y avait le contre-triché.
Il
y avait le contre-quel, c'est la contre-triche aujourd'hui.
Ah, Eric,
et c'est donc Julien qui remporte le magnifique cadeau.
Bien joué, Julien.
Jouer sur RMC avec le temps des cerises. L'expérience d'un café noisette aux saveurs raffinées, aux arômes intenses et irrésistiblement gourmands. Rendez-vous sur letempsdescerises.fr.
Il venait pas, c'est à la fin que j'ai sorti.
C'est qui Google, qui
ah, le
c'est
jeu, qui le jeu d'Eric est incroyable, les Césars.
Bravo à Julien, bravo à Louis Gerbier, merci à Eric Dimeco, bravo. Merci à Jean-Michel Larquet. Et dans un instant, c'est Génération After spécial Drôle de Dame.
Et demain, on se retrouve pour l'avant-match du Paris Saint-Germain à Bilbao. Eh oui, on va se régaler demain. Grande émission avec beaucoup de surprises. À Lisbonne, ouais, j'ai dit quoi? Ah non, Bilbao, c'était le match d'avant. À Lisbonne, pour le Paris Saint-Germain. Et Monaco sur la pelouse de Santiago Bernabéu au Real Madrid. Donc demain à partir de 18h, grande émission avec beaucoup de surprises. Donc soyez là et je vous conseille d'aller réécouter l'émission en podcast si vous l'avez ratée. Si vous ne l'avez pas écoutée en intégralité, elle est déjà disponible. Abonnez-vous à la chaîne Rotten sans flamme. Demain, 18h. Bisous, bonne soirée.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.